Vous écoutez
RMC. RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme, comme tous les jours de la semaine. Et oui, vous en avez l'habitude maintenant, du lundi au vendredi, de 18h à 20h, on est là. On refait le football, on parle de football, de la passion du foot, en votre compagnie, bien sûr, vous allez y participer aussi. On compte sur vous, chers auditeurs et auditrices, bien sûr. On est là jusqu'à 20h, comme tous les jours, vous allez profiter de la voix fantastique de Jean-Louis Tour. Salut Jean-Louis.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
Ah bah oui.
Oui, très bien, merci pour la présentation, ça fait plaisir.
Une voix de radio, physique de radio.
Ouais, merci.
C'est ce qu'on dit.
Ouais, ouais,
voilà. Voilà. Ce soir, on a du beau monde. Ah, oui. Hein, qui voyage aux quatre coins du monde, c'est Manu Petit. Salut Manu.
Bonsoir messieurs.
C'est normal, il est meilleur joueur de la Coupe du Monde 98.
Ça va ? Ça va, oui, très très bien. Oui.
T'es en forme ?
Oui, ça va.
Bon, on a Pascal Olmeta aussi avec nous. Salut Pascal.
Salut les
salut
amis.
Pascal. Salut Pascal, tu t'es remis de ta virée marseillaise ?
Ah, mais oh, franchement.
On a vu que toi. Oh. J'ai l'impression que c'était ton anniversaire.
Vrai. C'est pas vrai. Bon, c'est pas vrai. On va pas attaquer Jérôme Roten.
Pourquoi on n'a pas attaqué ? J'ai vu que toi sur les images, sur les photos, sur les vidéos.
Franchement, bon, attends, tout d'abord, Jean-Louis, bonjour.
Oui,
Manu,
bonjour Pascal.
Bonjour. Bonjour Pascal.
Après, tu sais bien que Jérôme, je me mets jamais en avant.
C'est
jamais
vrai.
En avant. Par contre, tout le monde m'a parlé de ton émission.
Ah, et alors, Jérôme. Alors c'était à l'occasion des 30 ans de la victoire de l'OM de 93.
Moi, j'avais découvert
le dernier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ?
Non, ben, tout simplement que certaines vérités, bon, sont pas souvent bonnes à dire, mais ce qui est plaisant, c'est que quand on parle avec nos connaissances footballistiques, quand on fait la vie des vestiaires et tout,
oui,
c'est très plaisant. Et beaucoup de joueurs, je vais dire anciens parce que c'était les 93, eh bien voilà, notre soirée, on a refait le monde, on a refait toutes ces émissions. Tout le monde passe le bonjour à l'équipe Roten sans flamme.
Ben,
j'étais très content
parce qu'il
y a eu beaucoup de positifs. Et ça, c'est bien parce que les gens qui sont dans les voitures... tu vois, ce matin, j'ai croisé une personne, Anthony,
oui,
agence immobilière, il
salut
me dit
Anto.
Putain, mais
salut
j'entends
Anto.
Que ça d'être dans la voiture pour vous écouter. Ben, bravo,
alors,
Jérôme. Bravo, les gars.
Alors, on salue Anthony.
Bravo à toi.
On te remercie,
merci
Pascal,
Anthony.
Et on salue donc tous les gens qui nous écoutent, des anciens
et
joueurs.
Et surtout ce qu'il a organisé, Eric Dimeco, ce soir-là, ça a été.
Ça, c'est moins important.
Merci.
Tout ce que tu as dit avant, c'était très important.
Non, mais c'est très important, parce que grâce à lui, on peut, tu vois, et on a eu cette chance.
Bravo,
j'étais
Eric.
Avec Pipsi, Stojkovic et,
ouais,
et Bernard Pardo, David Ginola, etc. On a parlé de Paris, on a parlé que le football, il faut plus qu'on s'en inquiète, parce que on perd nos vraies valeurs, et ça, c'est dommage. Le football, c'est la vie, les gars, c'est la vie.
Par contre, bravo Eric pour le jubilé.
Ouais.
Par contre, les analyses sur Tudor laissent un petit peu à
désirer. Il est meilleur en organisation qu'en analyse.
Ah oui.
D'accord. Ça fait quelques mois que je vous ai dit qu'il s'en allait.
Ouais.
Les gars, et on en a
soyez
parlé.
D'accord. Merci Pascal.
Merci Pascal.
Alors ce soir, Roten sans flamme donc sur l'OM, puisqu'Igor Tudor quitte son poste. C'est l'info de la journée. On va y revenir en longueur. Pablo Longoria sera l'accusé du soir, accusé de rendre l'OM trop instable. 32-16 pour participer à tous ces débats sur l'OM. À 19h, José Mourinho n'a donc pas remporté l'Europa League hier. Première finale européenne perdue par l'entraîneur portugais. Il a dénoncé après le match une injustice arbitrale. Le Mourinho d'hier vous fait-il envie au moment où on l'annonce au PSG? 32-16, le débat c'est à 19h. Le Casar enchaîné sera là à 18h45. Julien qui va nous révéler un nouveau projet pour Neymar. Donc soyez là juste avant 19h. Tout de suite, l'OM perd son grand frère.
Pascal, éducateur. Les adolescents difficiles, il connaît.
On voudrait surtout communiquer les souhaits de notre coach Igor Tudor de ne pas continuer l'aventure avec nous.
Pendant plusieurs semaines, il va vivre en immersion au sein d'une famille en perdition.
Je vais rester poli.
On est très content du travail qu'il a accompli.
Le TGV qui t'arrive derrière, que tu es mort.
Son objectif, renouer des liens rompus entre un père et un enfant. Pascal est le grand frère.
Et commence à me gonfler.
Oh. c'est fini.
Et oui, c'est fini officiellement pour Igor Tudor à Marseille.
Attends, allez, Pascal là-dessus. Hein.
Une saison seulement donc pour le technicien croate qui va terminer sur une troisième place en Ligue 1. On garde en tête les éliminations en Ligue des Champions. Non mais alors quand j'enchaîne, c'est bon, on a compris. J'essaie de vous noyer dans tout ça. Voilà, n'insistons pas en parlant des membres de la famille de Jérôme.
Ouais,
allez-vous regretter Tudor, supporter marseillais 32-16. Florent Germain nous rejoint, notre correspondant à Marseille. Salut Flo.
Salut les amis. Salut à tous.
Alors quelques coulisses de cette annonce. La version officielle déjà Flo, c'est donc que c'est Tudor qui a voulu partir.
Oui, bah en tout cas il l'a annoncé en plus ce matin. C'était juste avant l'entraînement à la commanderie. Il était ensuite en conf de presse entouré de Pablo Longoria et de Javier Ribalta, le directeur du foot. On va l'entendre. Il y avait clairement dans ces coulisses là, dans le décorum comme on dit, une volonté de soigner sa sortie, de faire passer l'idée que tout se termine bien dans la douceur, qu'il faut respecter son choix et le remercier pour la culture du travail inculquée à l'effectif. Ça, ce sont les mots de Pablo Longoria. Écoutez Igor Tudor.
C'était un honneur pour moi de travailler cette année au sein de ce club. C'était un honneur de faire partie de cette famille, de trouver des supporters comme on en trouve rarement, une énergie dans cette ville qui est rare. J'ai passé une année formidable. Je pense que je quitte le club en le laissant dans une meilleure situation que celle dans laquelle je l'ai trouvé. Et ça, c'est une fierté pour moi. J'ai pris cette décision de partir pour des raisons privées et professionnelles. Par contre, je n'ai trouvé aucun accord avec d'autres clubs. Je ne m'en vais pas parce que je me suis disputé avec qui que ce soit ou que les gens ne m'aimaient pas, bien au contraire. Je pense que travailler une saison ici à l'OM, c'est comme travailler 2-3 ans dans un autre club. J'ai l'esprit tranquille, ça faisait un moment que j'y pensais.
Voilà, ça fait un moment que j'y pensais. Il le dit. Alors, selon Pablo Longoria, on a discuté après en off un petit peu avec lui. C'est une démission, donc pas d'indemnité de départ officiellement. On a le sentiment, c'est vrai que c'est sûrement plus compliqué. C'est toujours mieux de dire que c'est l'entraîneur qui part en termes d'image pour lui, aussi pour l'OM à qui on reprocherait sinon trop d'instabilité sur le banc de touche. Reste que sportivement, et c'est partagé à l'OM. La saison n'a pas été une totale réussite. On a un OM qui a été défaillant dans pas mal de grands rendez-vous. Il y a eu peu d'adaptations tactiques chez Tudor, et Tudor ça reste un personnage très particulier qui a créé quelques tensions à la commanderie, pas uniquement avec les joueurs d'ailleurs, donc c'est pas interdit de penser que les dirigeants en ont pris conscience aussi.
Ok Flo, reste avec nous. La question est simple, parce que les supporters marseillais doivent regretter Tudor.
Non, il n'y a rien à regretter. Déjà, moi je le crois pas sur toute sa conférence de presse d'aujourd'hui, parce qu'il a jamais dit la vérité de toute façon. Qui nous disent du bien de l'OM, de son passage à l'OM pendant un an, moi je veux bien, mais dans ces cas-là tu quittes pas le navire, tu restes pas, tu démissionnes pas, donc c'est qu'il y a un mal peut-être profond et qu'il a même pas l'honnêteté de nous le dire. En tout cas, moi je suis pas surpris et je pense que vu la réaction, et j'attendais parce qu'on a fait plein de débats sur Tudor, doit-il rester parce que la saison est moyenne maintenant, elle est pas bonne comme certains pouvaient le dire il y a quelques semaines, que son système il a atteint des limites et c'est sûr qu'il fallait se régénérer, changer un petit peu ce système-là et que il a montré à travers ce choix-là qu'il est incapable de le faire, qu'il reste figé sur ses principes de jeu qui sont pour moi impossibles à réaliser au très haut niveau et sur la durée, ne serait-ce qu'avec les joueurs, comment tu les emmènes avec toi, parce que voilà, l'entraîneur il peut avoir des belles idées technico-tactiques, mais ce qui est sûr c'est que mentalement il faut les emmener avec toi, il faut qu'ils soient avec toi, il faut qu'ils te sauvent par moment, il faut qu'ils soient heureux de gagner aussi avec toi, et que ça c'est trop peu vu tout au long de la saison, donc pour moi il démissionne, il regrette quelque chose, et j'espère qu'il aura l'honnêteté dans quelques semaines de dire pourquoi il est parti, mais ce qui est sûr que Longoria, à l'arrivée, encore une fois, il s'est trompé sur le profil de l'entraîneur.
Alors
parce
on en parlera tout à l'heure des entrées d'accusé du choix de Pablo Longoria.
Exactement.
Alors pas sûr que Tudor donne d'autres raisons, puisque pour lui c'est une fatigue, c'est pour ça qu'il part. Pas sûr qu'il change de version.
Il a d'ailleurs été relancé Jean-Louis pendant la conf de presse, parce qu'on a quand même insisté et on ne s'est pas contenté de la version première. Il n'a pas voulu répondre. Et une autre question à laquelle il n'y a pas eu de réponse non plus, est-ce que les dirigeants ont vraiment insisté, parce qu'à la limite tu peux avoir un coach qui décide de partir et tu peux avoir des dirigeants, c'est bien de dire oui on respecte la décision, mais si tu estimes que c'est l'homme de la situation, peut-être que
il a surtout un contrat, il y avait eu un petit flou aussi au moment de Sampaoli où on pensait tous que c'était Sampaoli qui avait décidé de partir et on a compris un peu après que le club l'avait plus ou moins poussé à partir.
De toute façon, Sampaoli officiellement c'est aussi lui qui décide de partir.
Merci.
Moi je crois pas à 100% à cette version. Rudy Garcia, qui venait de Bielsa prolonger.
Bielsa non plus, j'y crois pas.
Bielsa, c'est différent. C'est
enfin, je sais pas, moi, les trois derniers entraîneurs, ils sont tous partis d'eux-mêmes.
Ouais. On peut même remonter, il y en a même un peu plus.
Non, mais Rudy Garcia, même lui, qui venait de prolonger, et on savait très bien que le courant ne passait plus, il arrive en conférence de presse, il prend la parole, et il dit j'ai décidé de partir. Non, c'est pas qu'il avait décidé de partir, c'est que le club s'était mis d'accord avec lui, et il fallait qu'il parte. Mmh. Donc c'est pas exactement pareil. C'est souvent un peu facile. Alors après, il y a peut-être des éléments qu'on maîtrise pas à 100%.
Manu, qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je suis mitigé, en fait. Mitigé parce que, même s'il y a quand même des points noirs sur la saison de Tudor, à la fois dans son management, mais également dans certains résultats, Coupe d'Europe, mais également sur des grands rendez-vous en championnat, également en Coupe de France. Je n'oublie pas aussi, quand il est arrivé, le champ de mine qui était devant lui, il a fallu justement qu'il ait une dextérité incroyable pour les éviter. Et puis pour
champ de mine, t'es dur quand même. Champ de mine, ils ont fini deuxième du championnat l'année dernière. C'est pas un champ de mine quand même.
Je te parle pas de la saison dernière. Je te parle à son arrivée. Je te parle pas de la saison dernière.
Ah oui, mais quoi, champ de mine?
Toi, tu fais le lien avec la saison passée avec Sampaoli. Moi, je te parle quand il est arrivé, tous les sifflets. Et c'est d'ailleurs un des arguments qui l'ont convaincu parmi tant d'autres également de ne pas rester à l'Olympique de Marseille.
Oui, mais rappelle-toi, Manu, pourquoi il y a eu ces sifflets quand même?
C'est cité, je pense que c'est parce qu'il est tellement rigide, il envoie tellement une image extrêmement fermée, froide, et qui ne correspond pas à Marseille, cette région chaude et passionnée, qui a besoin d'avoir quelqu'un qui vibre, qui communique aussi.
Bah donc, les dents sont partagées là-dessus.
Oui, mais bon, quand t'arrives également et que tu veux mettre des idées en place, en sachant qu'il veut jouer complètement différemment de ce que Sampaoli faisait, faut lui donner quand même le temps de mettre les choses en place. C'est pour ça qu'il a eu le soutien de son président rapidement au sein du vestiaire pour calmer tout le monde. Et au final, ça lui a donné raison pendant pas mal de mois. Moi, je trouve au contraire, et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont m'en dire, mais c'est ce que je crois profondément, c'est qu'il est allé au bout de ce qu'il pouvait faire, cet effectif. On me dit, c'est un des meilleurs effectifs de Ligue 1. Je suis désolé, moi, quand je regarde l'attaque, on est très, très loin d'une équipe qui peut prétendre à jouer en Champions League.
Mais voilà. Au bout d'un an, tu dis ça? Tu dis ces plans-là?
Non,
au bout
c'est pour ça que je te dis que c'est mitigé. C'est pour ça que je me dis, et c'est là où j'en reviens avec ce qu'a dit Florian. C'est, Florent, excuse-moi, mais, ces dernières années, tous les entraîneurs qui se sont succédés, et là, c'est une valse des entraîneurs à chaque fois. Ce sont la plupart du temps les entraîneurs qui prennent la décision de partir.
Mais d'accord, mais tu prends des fous furieux aussi, tu prends des personnalités.
Mais
mais
il faut prendre qui pour aller à Marseille? Excusez-moi, de la personnalité, il faut avoir du charisme, il faut avoir aussi un côté autoritaire et que tu puisses diriger. Et sincèrement, et là, je suis d'accord. Et là où je suis mitigé. Malgré certains points noirs qui ont été élaborés durant toute la saison, je dirais que quand même, dans son management, mais s'il est rigide, il y a quand même des points positifs dans la mesure où moi je reprends les propos, je paraphrase justement Rongier aujourd'hui dans sa conférence de presse, alors que c'est du politiquement correct. Mais quand je vois également comment il s'est mis à dos certains cadres, comment il est resté campé.
Point, c'était dur à l'entraînement.
Mais oui, c'est ça, ouais. et c'est même Rongier qui le dit, on est des feignants, donc on avait besoin de quelqu'un qui nous bouge. Il a quand même structuré intérieurement justement une équipe qui en avait énormément besoin. Donc ça me laisse quand même
les feignants. Alors, avec un autre système,
je veux en venir, et je vais terminer là-dessus. Pourquoi je suis mitigé, c'est parce que j'ai l'impression que son histoire, elle n'est pas allée au bout, en fait. On n'est pas allé au bout de son histoire.
Bah, moi, je trouve qu'il est.
Qu'on ait l'avis de Pascal aussi.
Il est super éprouvé, et c'est pour ça que je comprends parfaitement pourquoi il est parti.
Pascal, tu vas le regretter, toi?
C'est de toute façon, que ça soit lui ou un autre, le problème, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que déjà, on en a parlé longuement, nous les anciens, avec Longoria. Il nous a posé quelques questions, notre vision à nous, que ça soit sur le staff, sur les joueurs. On a pu parler de notre époque, tout ça, mais elle n'est pas révolue, notre époque. À Marseille, quand il est arrivé Franz Beckenbauer, au bout de 3 mois, il a dit « Bon, vous savez quoi, merci beaucoup, je m'en vais ». Pas tout le monde peut faire ce que tu aimerais faire à Marseille. C'est particulier. Quand tu as un stade qui commence à te siffler en début de saison,
faut être costaud.
C'est difficile. Si tu es homme avant tout, c'est difficile d'accepter. Et ensuite, pour travailler, c'est pas évident. C'est pour ça que là, Longoria, il est en train de construire, il est en train de faire et mettre en position
Pascal, des hommes construit, qui sont... Comment il construit si tu changes tous les ans d'entraîneur?
Ben c'est ce qu'il a dit.
Excusez-moi
d'intervenir,
ce sera le débat tout à l'heure à 18h30.
C'est Marseille.
Pascal,
je te repose
ma question directement. Est-ce que tu vas le regretter, Tudor?
Non. Moi, ce que je vais regretter, c'est son charisme, son... sa force de vivre sur le banc. Voilà, moi c'est l'homme, c'est après positionner tout ça, tu sais que les joueurs t'entendent plus, mais c'est sa force de d'essayer de te faire avancer de l'avant.
Et le fait qu'il les mette tous au boulot
construire. Aujourd'hui, Longoria, quand il nous pose des questions, c'est pas pour nous faire plaisir. Parce qu'à un moment donné, on est parti même en vrille, on a raconté des choses qui nous ont fait rigoler. Mais lui, il est en pleine construction. Et cette construction, elle passe par aujourd'hui enlever des briques qui peut-être ne font pas partie de ce qui peut aller à Marseille.
Pascal, Manu, moi je pense que Tudor est trop instable, il l'a montré dans le passé. Et que peut-être. Après une année comme ça, moi, quand Manu, tu me dis, il peut être fatigué de la saison, d'avoir mis ses idées, d'avoir été sifflé au début et tout ça. Mais je pense que Tudor, il a normalement cette carapace là pour faire abstraction de tout ça. Il l'a fait tout au long de la saison.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a resté crampé sur ses décisions.
Et que moi aujourd'hui, je trouve, alors en termes d'effectifs, je suis d'accord avec toi, Manu. Il y a beaucoup de manque dans cet effectif de l'OM pour rivaliser avec, ne serait-ce qu'avec les meilleures équipes du championnat de France.
On est d'accord.
Ça, on est d'accord. Par contre, moi, je reste persuadé que ce groupe de joueurs, il a peut-être atteint ses limites, mais c'est un groupe qui est bonnard. C'est un groupe qui, à mon avis, baisse la tête, fonce, vont droit dans le discours avec Sampaoli, vont droit dans le discours avec Igor Tudor. Il leur a demandé ça, ils ont fait ça. Ils ont toujours accepté ces missions-là, qui étaient certainement dures. Moi, j'étais pas dans le vestiaire au quotidien, mais certainement dures, les séances d'entraînement. Ils ont jamais rechigné. Ils ont même accepté certains qu'il a écartés. Et là, je pense qu'au départ, plus d'un délit de sale gueule qu'autre chose, il les a mis à l'écart. Ils ont fermé leur tronche tout au long de l'année. Ils ont avalé vraiment des couleuvres tout au long de l'année. Et là, en gros, je parle de Dimitri Payet. Gerson, lui, il est parti. De toute façon, on l'a déjà oublié par rapport à la saison dernière. Donc tout ça fait que les idées de Tudor, ça a été assez facile pour lui de les mettre en place avec ces joueurs-là. Il n'y a pas eu de rebelle.
Alors attends, Pascal,
dans le vestiaire.
Je te donnerai la parole dans une seconde, mais on doit s'interrompre. Il y a Cyril aussi qui patiente au 32-16, un supporter de l'OM. Okay. Allez-vous regretter Tudor ? Le débat continue. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h17 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. On continue nos débats dans Roten sans flamme. On est là, on est bien. On est avec Jean-Louis Tour, avec Manu Petit et avec Pascal Olmeta. On continue, Jean-Louis, notre dossier Olympique de Marseille.
Florent Germain est là également, notre correspondant à Marseille. Carrigan Tudor n'est plus l'entraîneur de l'OM. On va s'interroger sur la gestion Longoria des entraîneurs à 18h30. Mais d'abord, allez-vous regretter Tudor ? Cyril est là au 32-16.
Salut Cyril.
Salut à tous. Salut à l'équipe.
Bienvenue.
Salut.
Cyril. Bon, qu'est-ce que tu penses d'Igor Tudor ?
Eh ben, moi, je suis plutôt du côté de ceux qui vont le regretter, je pense.
D'accord.
On peut pas dire qu'il a fait une excellente saison. Il finit pas second, il est pas champion, il y a aucun titre, ça on est d'accord. Par contre, les joueurs, ils ont pas le droit de faire ce qu'ils font sur plusieurs matchs dans la saison. C'est pas Tudor qui est sur le terrain. Le cas Payet s'est géré bizarrement. Plus tard dans la saison, Guendouzi s'est géré bizarrement. Mais faut pas oublier ce qu'il a vécu, Tudor. Il est arrivé. Premier match au Vélodrome, il est sifflé comme pas possible. Derrière, il enchaîne 7 ou 8 victoires d'affilée. C'est un des meilleurs départs en championnat. On se dit, ça va peut-être le faire. Ensuite, en Ligue des Champions, il y a l'élimination contre Tottenham. Il est de nouveau critiqué par rapport à la gestion de la fin de match. Derrière, il y a Monaco et Lyon. C'est 2 victoires. On disait, s'il gagne pas ces 2 matchs, il sera viré. Il a toujours su relever l'équipe. Il a toujours su faire ce qu'il fallait. Après, il a des gestions un peu bizarres. Mais on verra fin d'année prochaine si on sera encore en Ligue des Champions ou pas.
Mais qu'est-ce que tu regrettes en fait ? Parce que là, tu lui trouves quand même quelques points négatifs, et ce qui est normal, hein, dans la gestion de certains joueurs, dans la gestion de certains matchs, même s'il a pu répondre présent un petit peu dos au mur. Tu peux pas être satisfait non plus totalement. Donc sur quoi tu vas le regretter en fait ?
Moi, je regrette sur la qualité de jeu qu'il a su proposer sur pas mal de matchs cette saison. J'ai écouté pas mal de débats, que ce soit chez vous ou avec Eric Dimeco. On a quand même pris énormément de plaisir avec l'Olympique de Marseille sur cette saison. Il y a eu des matchs ratés, mais on a quand même bien joué au foot. Et il y a des joueurs qui sont là pour le système à Tudor. Je pense notamment à Klos. Si l'an prochain, le coach, il veut jouer à 4 derrière, comment on fait Klos, on en fait quoi ?
Mais déjà, je pense que l'exemple de Klos, c'est... Après, ce n'est que mon avis, et tu as le tien, et tu as raison. Mais Klos, c'est typique ce que Tudor a demandé, des choses à Klose qui lui correspondent pas forcément. Il fait pas une mauvaise saison, Klose, mais c'est pas le Klose de Lens qui était très actif sur le côté droit, qui délivrait beaucoup de passes décisives avec beaucoup de centre parce qu'il a cette qualité de pied avec ce gros volume de jeu. Klose, il est passé à droite. Une fois, il était perdu. On m'a dit oui, mais il y a l'après Coupe du Monde. Alors c'est pour ça, psychologiquement, il a du mal à rebondir parce qu'il y a l'échec de la Coupe du Monde. Et puis après, on le passe à gauche. Et puis sur un match, je me souviens, il y a pas si longtemps que ça, il y a même Igor Tudor qui l'a défendu. Il dit ah, ça me fait plaisir parce que là, Klose revient à un bon niveau. Donc ça veut dire qu'il était à un mauvais niveau. Donc l'exemple de Klose, en fait, c'est typique le choix de Tudor qui a été compliqué à gérer, non ?
Mais non, moi je suis pas d'accord. Klose est le meilleur passeur de l'OM aujourd'hui. Donc il a fait beaucoup de passes décisives. Il a été à gauche pourquoi ? Parce que il y avait Tavares qui faisait pas l'affaire. Mmh. Donc et Kolasinac était meilleur en troisième axial qu'en piston gauche. Mmh. Donc Klose, pour moi, il a été plutôt bien géré. Et après, on va voir la qualité de jeu proposée l'année prochaine et on verra si fin mai 2024, on est en Ligue des Champions, enfin, on est sur le podium de Ligue 1 ou pas.
Moi, je pense que Klose, en fait, c'est une victime collatérale du cas Bailly, en fait.
Oui.
Parce que s'il avait eu davantage de confiance et de temps de jeu et pouvoir s'installer, j'ai l'impression que Kolasinac aurait pu décaler justement sur le côté gauche et on aurait résolu le problème avec Klose.
Exactement, parce qu'on critique Bailly, mais là je peux le reprocher à Tudor. Par contre, c'est la gestion du cas Bailly. Ils reviennent de 9 matchs de suspension après la Coupe de France et on le fout direct sur Mbappé.
Et oui, exactement. On l'a tué ce jour-là.
C'est pas vraiment un cadeau pour le retour. Donc ça, à la limite, on peut aussi le reprocher à Tudor.
Il y en a eu plein, hein, Cyril. Hein. Je suis désolé, mais regarde le cas Balerdi qui passait avant Mbemba aussi, ouais. qui est dans l'équipe type de Ligue 1 et c'est normal parce qu'il fait une très belle saison et lui aussi a moins joué. Le gars Guendouzi, le cas Payet, le cas Malinovski où il s'est entêté à le laisser sur le terrain alors qu'il y avait des joueurs qui rongeaient leurs freins sur le banc de touche en regardant les prestations très très moyennes de Malinovski. Tu sais, ça commence à en faire beaucoup quand même, non?
Ça en fait beaucoup, ça je suis entièrement d'accord. Mais ça a quand même duré une bonne partie de la saison avec ils voulaient mettre certains joueurs à la place d'autres. Mais ça a quand même fait ses preuves pendant une bonne partie de la saison.
Mais pas au stade Vélodrome, Cyril. C'est ça que, en fait, moi ce que je vous reproche, et encore une fois, attention, moi je ne vais pas au stade Vélodrome, je ne suis pas supporter de l'Olympique de Marseille comme vous.
Donc on le sait.
À partir de là, je ne peux pas mettre à votre place en disant voilà, on prend du plaisir à voir cette Olympique de Marseille. Mais moi, en étant assez objectif, je pense, sur l'Olympique de Marseille, vraiment, je trouve que le tableau fait sur Igor Tudor et sur la plupart des matchs d'Igor Tudor avec l'OM, vous l'avez embelli, quoi. Mmh. Parce que des fois, c'était une mi-temps sur deux où c'était bien. Sur la fin de saison, quand tu perds autant de matchs ou tu perds autant de points au stade Vélodrome, me dites pas que vous êtes satisfait de la façon de jouer d'Igor Tudor.
Non, je dis pas qu'on est entièrement satisfait, mais je garde plutôt
un bon souvenir,
un bon truc plutôt qu'un mauvais.
D'accord. Ok.
Cyril, merci. Plutôt des bonnes choses.
Merci d'être venu réagir.
Merci Cyril, en tout cas.
Et bienvenue.
Et puis, bonne saison. Bonne saison avec Rudy Garcia l'année prochaine.
Rudy Garcia. Avec
Christophe Gallardo qui va venir.
Ouais. Alors Gallardo, ce serait Gallardo,
ça serait sympa. Il retrouverait peut-être
après la statue qu'il a eu maintenant. Vous avez vu d'ailleurs.
Non, mais Gallardo, il retrouverait peut-être
il a des souvenirs au Vélodrome.
Ça joue dans le tunnel.
Vous avez vu la statue qu'on lui a mis devant le stade là, le club qu'il a géré.
River.
Ouais. Tu l'as vu la statue?
Ouais.
Il mesure je sais pas combien de mètres. Il y a un détail.
Exactement.
Voilà. Donc exactement. Il en faut justement pour aller à Marseille. Voilà. Donc
que t'as entre les jambes, Jérôme.
Ouais.
Allez, on
veut rester à Monaco. T'avais à une certaine époque.
Je le verrai plus à Monaco qu'à Marseille. Excuse-moi.
Ah, d'accord, okay. Allez, on en reste là juste sur ce débat. Est-ce que vous allez regretter Tudor? Mais on continue de parler de l'OM et de Longoria dans une seconde dans Faites Entrer l'Accusé. Le tennis, comme tous les soirs pendant la quinzaine, Roland Garros sous le tête de mire sur RMC. On fait le point avec Julien Taxi. Il y a une élimination surprenante.
Oui, l'un des outsiders dans cette partie basse du tableau, déjà bien dépeuplé après l'élimination de Daniil Medvedev, c'est Yannick Sinner, l'Italien, tête de série numéro 8, qui a été éliminé par Daniel Altmaier, l'Allemand, 79e mondial, 7-5 au 5e set après 5h26 de jeu. La dernière française du tableau féminin est sur le court central et ça va pas forcément vous surprendre. Ça se passe pas très bien face à Hans Jaber, qui est une cliente 6-2 pour la Tunisienne de partout dans le 2e set.
Ouais, c'est dur pour Océane Dodin. hein, effectivement.
C'est dur pour les Français, quoi.
Dans une seconde, Longoria accusé de mettre trop d'instabilité à Marseille. À tout de suite.
RMC, Rotten sans flamme.
C'est impardonnable, c'était pas le mot. Hein. C'était indéfendable. Qui n'est pas défendable?
Faites entrer l'accusé.
Alors l'OM va donc à nouveau repartir de zéro. Nouveau coach à trouver après le départ aujourd'hui d'Igor Tudor. Nouvel effectif à composer puisqu'on attend une dizaine de départs, une dizaine d'arrivées. Alors donc après Sampaoli, après Tudor, un nouvel entraîneur qui part après seulement une saison sous Pablo Longoria. Ces deux entraîneurs, pas franchement habitués à construire dans la durée hein, quand on voit leur parcours dans les clubs précédents. Ça fait donc que Longoria est accusé ce soir de trop entretenir cette instabilité. L'accusation est menée par le procureur Jérôme Rotten. Bonsoir monsieur le procureur.
Bonsoir à tous.
Longoria va être défendu par l'avocat maître Manu Petit. Bonsoir.
Bonsoir.
Et le juge Olmeta va nous trancher cette affaire. Bonsoir monsieur le juge.
Bonsoir tout le monde.
Alors monsieur le procureur Rotten, vous reprochez quoi à Longoria?
Bah, et moi j'avais trouvé un petit surnom à Pablo Longoria il y a quelques mois, c'était El Mago, le magicien, parce que en effet, je pars du principe que quand tu changes un groupe de joueurs comme il a changé depuis deux ans, où tu bouleverses les habitudes du groupe, en général, t'arrives pas à tirer le maximum du groupe tout de suite, donc les résultats s'en font sentir, ce qui a pas été le cas sur ces deux années. Entre l'entraîneur qui change, donc Sampaoli la première année et Tudor là, le groupe de joueurs qui change par moment, cette équipe l'année dernière qui avait fini deuxième, l'équipe qui aujourd'hui a fini troisième du championnat, par moment il y avait huit nouveaux dans l'équipe par rapport à l'année dernière, donc c'est dire qu'il y a une grosse instabilité avec un projet de jeu complètement différent avec Igor Tudor. Et moi je dis que il s'en sort bien encore en termes de résultats, même si la saison est moyenne, il s'en sort bien. Mais cette instabilité-là, que tu sois à Marseille ou ailleurs, ça reste du football et on est passé par là dans un vestiaire. Et je pense qu'un groupe de joueurs avec un entraîneur tire le maximum de l'ensemble du club et des résultats sportifs et de la façon de jouer au bout de deux ans, trois ans de vie commune. C'est comme ça, au bout de trois ans, il y a la fin d'un cycle. Et après, soit on continue parce qu'on est content de ce qui se passe, soit on bouleverse un petit peu le groupe de joueurs parce que des joueurs peuvent partir et tout ça. Mais il doit y avoir quand même une stabilité. Moi, j'imagine pas encore une seule seconde que, même si les échos qu'on a vont pas dans ce sens-là, que ce groupe de joueurs va être encore perturbé de 7, 8, 9 arrivées et qui donnera une équipe type l'année prochaine qui ressemble à, qui sera renouvelée à 75%. Ben, c'est pas possible, surtout que il y a les objectifs de l'année prochaine, c'est-à-dire le tour préliminaire pour participer à la Ligue des Champions, quid si on fait la Ligue des Champions, l'Europa League, dans le recrutement, la façon d'évoluer, je pense qu'il va falloir peut-être en effet qu'il y ait un peu plus de stabilité déjà en termes de joueurs et après essayer de trouver un entraîneur qui construit sur la durée. Mais j'ai pas l'impression que ça soit les grandes lignes de Pablo Longoria et c'est ça qui me déçoit un petit peu dans sa vision du football, parce que très honnêtement, je pense qu'il a une sans avoir été un joueur de football professionnel, en tant que directeur sportif et aujourd'hui président, il fait un peu tout dans le club. Je trouve qu'il a vraiment une bonne vision du football. Il a cette vision du foot, ouais. Cette sensibilité du joueur et tout ça. Mais il y a un défaut, c'est celle-là. C'est que je pense que oui,
il faudrait choisir un coach capable d'enchaîner une saison, quoi.
Il a pas été assez dans un vestiaire, je pense, pour sentir ou parler avec certains joueurs qui, pour gagner, sont restés, se sont inscrits dans la durée dans un club. Et j'aimerais bien qu'il prenne conscience de ça, parce que malheureusement, je pense qu'au bout d'un moment, surtout à Marseille, avec cet élan populaire, cette ferveur qu'il peut y avoir, il pourrait y avoir un ras-le-bol de la part des supporters. Alors si là, les supporters à Marseille se mettent à dos Pablo Longoria, je pense que là, je lui souhaite vraiment des bons courage. Pour l'instant, il a ce crédit-là, et j'espère qu'il restera, mais pense à la stabilité, Pablo.
Maître Petit.
J'ai écouté l'accusation et encore, j'essaye de trouver en fait l'argument en fait du procureur.
Bah quand même, là, c'était clair.
L'instabilité.
Oui, c'était
clair. C'était super clair. Donc c'est faute de Pablo Longoria.
Bah, il choisit des entraîneurs qui restent pas plus d'une saison de début de leur carrière.
Et puis des joueurs aussi, Manu. Expliquez-moi le début de la conférence de presse aujourd'hui.
C'est-à-dire la première phrase que le Pablo Longoria cite justement dans la présentation de la conférence de presse en annonçant justement
il dit
la
Igor
démission
a décidé,
Igor Tudor.
A décidé lui de
dans un
de,
couple quand quelqu'un décide de partir, est-ce que c'est la faute de la personne qui reste?
Non mais Manu.
Non, non, il n'y a pas de Manu. Pas je vous ai pas interrompu.
Quand même, là c'est lui qui l'a choisi il y a un an, en sachant qu'il n'a jamais enchaîné plus d'une saison dans un club.
Ah d'accord.
Ou très
alors,
peu.
Alors, c'est de se faire abstraction justement à l'histoire de ce club, au côté passionnel de cette ville, qui est inhérent justement, et seulement inhérent à cette ville qui est en France, ou qui use et qui lessive tous les entraîneurs qui passent sur l'air tapis.
C'est la faute de la ville et du club, mais pas
non,
du président.
Non, je dis sous l'air tapis, c'était déjà le cas. Okay. Ces derniers entraîneurs qui sont succédés, c'est déjà le cas. Avant même que Tudor ou même que Longoria arrive au club, c'était déjà le cas également. Les rares entraîneurs qui sont entrés quelques années, c'est qui? C'est Didier Deschamps, c'est Villas-Boas et c'est Rudy Garcia. C'est tout. Dans toute l'histoire de récente sur les 20 dernières années, ils sont tous partis assez rapidement.
Bah, c'est pas pour autant
donc
que
c'est la faute de Longoria alors qu'il est arrivé il y a 2 ans au club. Donc voilà. Donc je vais vous dire,
c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont rien gagné depuis 10 ans encore.
Bah, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont rien gagné depuis 10 ans. Donc moi je veux bien l'instabilité, ça n'a pas empêché le Séville de gagner son 7e trophée européen en changeant 3 entraîneurs dans la saison. Ça
n'a
pas empêché le Paris Saint-Germain. Vous allez me dire, oh, mais avec l'effectif qu'ils ont, c'est normal de gagner à chaque fois le championnat de France alors qu'ils font une saison merdique. Non mais quelque part, moi
le
ça
Paris
fait...
Saint-Germain, mais qu'est-ce qui vient foutre là le PSG?
Moi, votre instabilité,
par rapport à l'année dernière, Manu,
votre instabilité, ne m'interrompez pas. C'est marrant à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec moi, on essaye toujours de m'interrompre.
Du PSG, l'équipe type du PSG, c'est quasiment
Séville,
la même que l'année dernière.
Le Séville, justement, Séville, qui était dans la relégation il y a encore quelques semaines,
oui, alors,
qui s'est sauvé et qui est encore cette fois.
Ça n'a rien à voir, ça.
3 fois d'entraîneur, ils ont changé cette saison.
Ça,
avec le fameux Sampaoli.
Non, mais là, c'est pas le débat de changer l'entraîneur en cours de saison.
D'instabilité.
Les joueurs aussi.
Vous me parlez d'instabilité. Alors qu'en fait, il essaye de faire ce qu'il peut avec les moyens qu'il a, Longoria. Et il a fait des miracles sur le marché des transferts depuis son arrivée. D'ailleurs, ça a été cité à maintes reprises. Et aujourd'hui, vous me demandez, vous lui demandez justement d'endosser la responsabilité du départ unilatéral de son entraîneur, en sachant qu'il n'avait pas les moyens peut-être de prendre un entraîneur beaucoup plus huppé. Donc, il est allé voir un entraîneur qui donnait satisfaction sur la saison qu'il avait écoulée en Italie. Donc là, vous êtes en train de m'évoquer un problème qui ne correspond pas à la gestion de Paul Longoria, qui essaye de se creuser les méninges. Je suis persuadé qu'il a même anticipé son départ en sachant qu'il a déjà un entraîneur qui va arriver. Donc moi sincèrement, si tous les directeurs sportifs ou présidents de clubs se comportaient comme Longoria, on aurait beaucoup moins de problèmes dans certaines gestions, à la fois financières mais également sur le plan sportif. Donc il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et je trouve qu'il fait des miracles jusqu'à présent. Donc vous pouvez lui reprocher tout ce que vous voulez. Tudor a décidé de partir et c'est pas sa responsabilité.
Très bien. Monsieur le juge Olmeta, vous tranchez pour qui? Est-ce que Longoria met trop d'instabilité à l'OM, ou est-ce que, comme dit Manu, il fait ce qu'il a et c'est très bien?
Non, mais tout simplement, je crois que Manu a tout dit. Il a tout dit, et c'est la discussion qu'on avait avec Longoria ces 2 jours. C'est de savoir comment avancer, comment construire, essayer de garder des joueurs, de pas se tromper, et puis les entraîneurs, bon ben ça va, ça vient, mais le problème il reste que pour construire, il faut être d'accord sur tout. Et là Longoria, je pense qu'il avait eu déjà la discussion avec le coach était déjà partant, maintenant
non,
il a continué
coach,
à construire.
Pascal, je suis désolé, mais tu me dis il veut construire avec des joueurs, mais il a changé l'équipe à 75% l'année dernière. Donc
Jérôme,
comment tu veux construire,
d'accord,
toi?
Jérôme, je suis d'accord. Oui. Moi, pour avoir connu Marseille, ce que j'ai vu l'autre soir, 25 km de feux d'artifice.
Non, mais d'accord.
Attends. J'avais comme entraîneur Beckenbauer et surtout Raymond Gauthals. Ouais. Raymond Gauthals, il était tellement calme, tranquille. Quand il sortait, à un moment donné, il y a eu des matchs où ça n'a pas marché, il était insulté. Mais bon, la chance, c'est qu'il était un peu sourd, il n'entendait pas. Mais voilà, il avait ce caractère de dire le football.
Il y avait Tapie aussi derrière.
Et Marseille, c'est énorme. Il faut le vivre pour savoir ce que c'est.
Donc toi, t'es d'accord t'es d'accord pour qu'une équipe d'une année à une autre, alors quand elle a bien fonctionné, elle change à 75%.
Mais c'est inhérent à cette région, à Marseille, à ce club.
Mais Jérôme, en 93, combien on a changé d'entraîneur? C'est instable.
Je te parle pas des entraîneurs, je te parle des joueurs.
des joueurs. C'est pareil, les joueurs, c'est pareil, ah, Jérôme. D'accord.
Enfin, attendez, donc, et moi je suis d'accord avec Jérôme, il y a des joueurs qui se sont déjà inscrits dans la durée à Marseille, qui ont déjà enchaîné quelques saisons. Il y a des entraîneurs qui ont quelques saisons. Là, à partir du moment où vous choisissez un entraîneur qui a fait une saison dans chaque club, Sampaoli, c'était le cas.
Mais Louis, les gars,
Tudor, la même chose.
Qui s'est inscrit dans la durée?
Jean-Louis, vous demandez quelque chose qui n'existe quasiment plus dans le football moderne. Dans tous les grands clubs européens, à part Manchester City, Liverpool avec Klopp, ou même Ancelotti au Real Madrid, citez-moi des grands clubs européens qui n'ont pas changé d'entraîneur ces dernières années, qui ne changent pas en cours de saison.
D'accord, les entraîneurs, mais les joueurs, les gars.
Jean-Louis,
les joueurs. Il n'y a pas des joueurs qui peuvent s'inscrire dans la durée.
Mais les joueurs.
Jean-Louis, cite-moi un entraîneur qui s'est inscrit dans la durée.
Il n'y a pas d'ajustement, les joueurs, aujourd'hui, sur le plan comptable. Les gars,
vous vous rendez compte comment vous parlez? Et je ne dis même pas s'inscrire dans la durée pendant 5 ans, je dis 2 ans.
Exactement.
Mais ils ne peuvent pas. Mais tu connais les finances de l'OM. Tu sais à quel point ils sont obligés. C'est vital de se qualifier sur la Champions League. Donc, il y a 2 tours préliminaires là pour le. Éventuelle qualification.
Donc, c'est pas possible d'avoir un entraîneur pendant 2 ans.
C'est pas ce que je te dis. Moi-même, j'aurais aimé qu'il reste une année supplémentaire Tudor, mais je suis persuadé qu'il n'avait pas les garanties justement sur l'effectif qu'il escomptait pour la saison prochaine parce que Longoria est incapable de lui donner.
Il n'avait aucune garantie l'année dernière et ça l'a pas empêché de venir.
D'accord. Ouais, mais d'accord. Manu, t'es d'accord. Et Pascal, vous êtes d'accord avec le système à l'OM. On parle de l'OM, hein, quand même. On parle de Marseille, qui est la deuxième place forte du championnat de France après le Paris Saint-Germain. On est d'accord. Donc, à l'OM, tu prends des joueurs en prêt, mais pas d'option d'achat. Mais ça, vous êtes d'accord avec ça? Ça veut dire que Marseille réagit comme une équipe, je vais te dire, Toulouse pourrait réagir comme ça. Même Lens le fait pas. Même Lens le fait pas avec des moyens bien différents. Mais à Marseille, on le fait.
Mais
et ça,
Lens
vous trouvez ça logique?
La gestion qu'a dû justement hériter Longoria lorsqu'il était arrivé au club. Moi, regarde, quand je vois tout ce qu'ils ont à rembourser dans la saison à venir.
Non, qu'on arrête, Pascal.
Mais ça, c'est de la faute.
Rongier, ça fait combien?
Il faut qu'on arrête.
Ah, les Rongier.
Oui, il y a quelques joueurs qui s'inscrivent sur la durée, mais bon. Il y en a peu. Et moi, je parlais des entraîneurs surtout. Allez, on arrête là. Victoire de Manu. Merci. Dans ce fait d'entrer l'accusé. Bon, et dans une seconde, Julien Cazard.
Immérité.
Et Neymar dans le Cazard enchaîné. À tout de suite.
Immérité.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
18h45 sur RMC, les 10 dernières minutes de la première heure de Roten sans flamme. Et qui dit les 10 dernières minutes, on est avec le spécimen, c'est Julien Cazard, bien sûr. On est avec Manu Petit, avec Pascal Olmeta, avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis, après 19h, on a encore un bon programme.
Mourinho, le Mourinho d'hier vous fait-il envie, celui que vous avez vu perdre cette finale de l'Europa League? 32-16 pour débattre.
RMC, Roten sans flamme.
Le Cazar enchaîné.
Bonsoir à toutes et à tous.
Cazar.
Oh, il est là, il va être champion.
Fais gaffe à ton scooter.
Il est en première classe, il est chaud, il est confortable. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 1er juin 2023 et vous avez été nombreux hier à nous dire que ça vous a fait du bien, cette belle parenthèse Roland-Garros. Hier, on a fait des parenthèses dans cette grisaille footballistique. La Galtier qui va partir, Tudor qui s'en va, Paul Mitchell qui va prendre un coup de chausson dans le cul, Ligard qui s'est vu trop beau qui va sauter, Franquez, on sait même pas s'il va rester. C'est incroyable. On n'a jamais vu une telle charrette depuis celle que tu traînais, Jérôme, à la fin de ta carrière.
C'est vrai.
Et vous avez été nombreux.
Je traînais, t'étais à côté de moi,
j'arrivais à suivre des yeux sans cligner.
Je pense que tu regardais pas autant les matchs.
En tout cas, je suis content de voir que t'es pas susceptible, Jérôme.
Et ça fait plaisir.
Et ça, c'est la marque des grands. Vous avez été nombreux. Tu misais pas sur ta vitesse, de toute façon.
Oui, mais c'est vrai que t'es bien placé pour juger, toi, par contre.
Et il est toujours pas susceptible.
C'est chaud.
Non, mais
on va se détendre, bien placé pour juger.
On a vibré avec des dénouements de tennis incroyables. Cette magnifique finale de Roland Garros qu'on a vécue hier grâce à Eric Salio. Enfin, c'est un premier tour, mais pour un Français, c'est une finale.
On n'a jamais vu ça.
Alors, c'est vrai que ça change de toi, Jean-Louis, là, et Jérôme, tous là, vous êtes des chouineurs, jamais contents avec le foot. Alors que Salio, lui, il est positif.
Ouais.
Tu vois, et j'ai envie de revivre ce bonheur.
Ah.
Et on se leur fait le bonheur d'hier soir. Enfin, c'était magnifique, écoutez.
Oh, c'est pas vrai! Un passing gagnant avec l'aide de la bande! Quel beau fils remporte ce match insensé! Insensé!
J'ai jamais vu ça, je crois.
Incroyable.
Ah ouais. Et comme si ça ne suffisait pas, Gaël Monfils, qui devait jouer aujourd'hui son deuxième tour en night session, a déclaré forfait.
Du coup, la saga,
c'est moins bien là. Du coup, ouais, parce que rappelez-vous ce qu'il avait dit. Parce que moi, j'aurais quand même que on se rappelle, se souvienne de ce qu'il a dit après la victoire. On peut écouter, s'il vous plaît.
Incroyable. 3-6.
On est d'accord, 6-3, c'est le premier tour.
7-5. Ce n'était qu'un premier tour.
Oui.
Et c'est peut-être le début d'une saga, non? Vous croyez pas?
Alors, c'est Saga en un épisode. C'est le mec qui te porte la poisse. C'est quand il le dit, tu sais déjà qu'il y aura forfait. On l'avait parlé, on s'est dit avec le qu'il y avait peu de chance, il va être forfait. Le seul qui gagne, oui. On va pas se mentir, c'est la douche froide ce matin. On l'avait vu venir, mais c'est dur. Alors, il y a eu d'autres Français qui ont joué.
Ouais.
D'ailleurs, là, on en a un qui est en passe de revenir à trois jeux partout. Là. Enfin, c'était tout à l'heure, on peut écouter. C'est un
et
très bon
ça
moment.
Va mieux pour ouais. Richard Gasquet, puisque ouais. Le Biterrois a égalisé à une manche partout face à Arthur Rinderknecht. Oh, c'est pas vrai.
J'ai jamais vu ça. Incroyable.
C'est une lumière absolue dans la nuit. C'est un chef-d'œuvre absolu pour l'éternité. Voilà pourquoi on aime
le tennis Roland Garros.
Pas mal.
C'est fou.
Ah, c'est fou Roland Garros.
C'est fou hein. Et ça, alors c'est dommage, il n'y a plus de Français. Mais il n'y a plus. Il n'y a plus de Français à Roland Garros.
Il y en a une encore.
Non, alors Océane Dodin a perdu.
Ah.
On refera le point avec Julien Taxi. Mais...
C'est fini.
Non, ne rigolez pas. C'est...
Non, c'est pas marrant.
C'est dommage parce que, avec ne serait-ce qu'un jeu gagné, on pouvait vivre.
Ah, mais là, il en reste un.
Il reste qui?
Il reste Rinderknecht.
Ouais.
Contre Fritz.
Rinderknecht. Je ne sais pas pourquoi.
Ça sent pas bon.
Mais ça sent pas bon. Allez, sommaire. Dans cette édition, nous reviendrons sur la magnifique finale d'hier soir. Enfin, voilà, la finale, quoi. Roma-Séville, une finale épique encore. Et alors, évidemment, pour cette finale, on a pris les meilleurs. C'est la Roma, parce que je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois qu'on avait il y a eu un commentaire sur la Roma, on avait pris Vasseur. Pauvre Vasseur, qui commentait la Roma.
Ouais.
Vasseur,
l'ancien coach.
L'ancien coach, joueur du PSG aussi, qui avait confondu le gardien de la Roma sans cette sélection champion d'Europe avec un milieu franco-portugais des Créteil Lusitanos.
Oui.
Vous vous souvenez, hein, souvenez-vous.
Et là, quand.
Il n'a pas mis les mains, heureusement.
Rui Pataka va peut-être vouloir prendre le ballon.
Rui Pataka.
Ouais, il avait dit
Rui
Pataka.
Non, mais c'est attaquant, Rui Pataka, quand même.
Ouais. Oui. Ils ont ça que c'est compliqué de le confondre avec un gardien qui a 107 sélections et qui est champion d'Europe. Alors, forcément, on l'a pas pris cette fois. Désolé. On a pris le meilleur. On a pris Jeannot. Et quant à Jeannot, bah, Jeannot, lui, c'est le taulier. Lui,
ah bah oui.
il fait pas d'erreur. Ah,
lui,
c'est pas assez le haut niveau, Jeannot.
Ah, oui.
À la 46e minute, la frappe de la part de Souzo, elle est mal maîtrisée par Rui Pataka.
Alors. Qu'est-ce qu'ils ont avec Rui Pataka?
Il a marqué une génération, mais, Rui.
C'est incroyable. Pourquoi Rui Pataka? C'est déjà pour moi, ouais. Pataka, la Pataka, c'était un resto à Montparnasse, tu sais, où ils faisaient les spécialités de merguez, couscous, pizza, enfin bon, bref, quand t'as pas le cinéma, mais Rui Pataka, c'est
incroyable.
Bizarre. Alors, nos experts foot ont des avis sur tous les sports, hein, RMC, tu le sais, hein, la famille RMC. Tu connais le slogan RMC, c'est pas parce que t'as rien à dire qu'il faut pas en faire profiter les autres.
Surtout Daniel Ariolo.
Non, pas que.
Très bon slogan.
Tu veux que je te le redonne? RMC, c'est pas parce que t'as rien à dire qu'il faut pas en faire profiter les autres. Donc, mardi soir, il y avait le match de Boulogne de Wembanyama en basket et Daniel nous a fait profiter.
Daniel, il maîtrise tous les sports là c'est pas.
Oui, mais là, c'est mieux.
On va voir avec le slogan.
Oui,
on sur Bartoli ou quoi?
On écoute. Non, c'est mieux.
Et ça sent bon pour cette équipe emmenée par Victor Wembanyama.
Pour qu'il soit champion en France avant de partir aux States.
Ne fais pas partie des complotistes, Daniel.
RMC, Rolex, des casinos partouges, Daniel Riolo, Maître Divisio, Gérard Fauré, Sandrine Rousseau, Francis Lalanne et Raymond le chauffeur livreur de TPMP présentent les complots de la Babale. Si toi aussi tu penses qu'il y a du chien dans les nems, que les Portugais sont la mafia du rez-de-chaussée et que Manu Petit porte une perruque, achète les complots de la Babale. En cadeau pour les 40 premiers acheteurs, le dernier numéro de la revue de l'After.
Eh ouais mon gars.
Donc
c'est un bon complot, je l'avais pas
entendu. Il est très bon celui-là. T'aimes ça les complots dans le basket? Est-ce qu'il n'y en aurait pas dans le tennis aussi?
Ah, aussi, d'accord.
Ah, Gilbert a essayé de s'intéresser au tennis.
Ah bon?
Mais bon, en face, il y avait le boss, hein, Eric Salio.
Ah.
On écoute.
Il y a une polémique à Roland Garros sur les balles. Apparemment, tout le monde s'en plaint.
C'est pourri.
Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as testé?
Il y a une déperdition de qualité, mais c'est plutôt général. Apparemment, c'est peut-être dû au Covid.
RMC, Mephisto, Armand Thierry, Eric Salio, Jean-Marie Bigard, Mathieu Kassovitz, Véronique Jeunesse et Gilles Verdez présentent les complots de la petite babale. Si toi aussi tu penses que Julie Gaillet est un homme, que Jacques Glassman était un agent du Mossad et qu'on pisse dans le Gatorade pour lui donner du goût, achète les complots de la petite babale. Pour les 40 premières commandes, une mèche des les anciens cheveux de Gilbert.
Eh ouais, mouillère.
Le cadeau est incroyable. Hein, le cadeau de fin est incroyable.
Ah, il est vachement bien. Attends, il les garde. Tu sais, comme tu fais ton enfant de 5 ans.
C'est dingue. J'ai arrêté de boire du Gatorade, moi.
Ben, tu trouvais pas qu'il y avait un goût?
Ouais.
C'est vrai, parce qu'il y avait un goût. Il l'avait dit dans les clop-clop-clop. Je vais être au courant, dernière nouvelle, au courant de la nouvelle pour Neymar.
Non.
Neymar vient lancer une croisière. C'est pas une blague. Hein.
Ah oui,
c'est une
vraie info. Ça,
oui, il va lancer une croisière du 26 au 29 décembre. C'est pas une blague. C'est vrai. Non, c'est une vraie info.
Où ça?
Une croisière, bah, sur un bateau, je pense.
Ah, mais où?
En mer, en pleine mer.
Mais
j'sais
où
pas. Et j'en sais rien. J'ai pas vérifié. Entre le 26 décembre et le 29 décembre.
C'est dans la Seine.
Donc visiblement, il pourra pas faire le Boxing Day.
Sur la Seine.
Ou alors, c'est
pas. Bateau mouche.
En tout cas, on a la bande annonce.
Ah.
Bon dia a todos e bem-vindo à la croisière du football de Neymar.
Bienvenue à todos. É toi. Où est toi? Toi qui fais la tête. Faut pas faire la tête. Faut que tu fasses la fête. Je t'invite du 26 au 29 décembre prochain sur ma croisière, la croisière de Neymar. Pourquoi la croisière? Parce que la croisière, c'est la mer. Et la mer sous la mer, tu peux jouer au bunker. C'est la mer, tous des frères. Sur la mer, y'a pas Nasser. C'est le bateau, y'a le casino. C'est le bateau, y'a pas les impôts. C'est le bateau, y'a pas Riolo. Viens-toi aussi vers la fête. Y'aura tous les copains de la fête. Y'a Vinicius Junior.
Yeah, je suis là aussi.
Richard Lisson, et Rafinha, Lucas Paqueta, et Bolsonaro. Mais pas Juninho. Ah non, Juninho, le pas rigolo. Fais pas la fête, Juninho. Et y'aura même Daniel Vez. Parce que sous la mer, y'a pas la loi. Pas la loi, et les filles, tu peux leur faire la fête dans les fesses. Qu'elles soient consentantes, pas consentantes. Consentantes, pas consentantes. Consentantes, pas consentantes. Et c'est la fête dans les fesses de la croisière cinéma.
Oulala, il y en a marre du TV.
Pas de cinéma, la fête.
Je vous le dis tout de suite, j'ai déjà pris mes places. Ah, et c'est une vraie.
Ça ne m'étonne pas.
Hein?
Nous, on se désolidarise, bien sûr, c'est un petit champ là.
Non, parce qu'il n'y a pas de loi sur la mer.
Oui, oui, mais quand même.
Il y a, tu peux jouer au casino.
Il y en a quand même.
Il y a des lois maritimes.
Ah bon? Il y a des lois maritimes? Merde, je savais pas trop faire.
Merci, Julien.
RMC, le Casar enchaîné.
Réécoutez Julien Casar en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.
Le quiz 19h45, Rotten contre le reste du monde avec le retour de Julien Casar et Mourinho dans une seconde. Ce que vous avez vu hier de José Mourinho, est-ce que ça vous fait envie? 32-16, à tout de suite.
Qu'est-ce que ça fait là? T'as craqué ou quoi?
Maintenant, c'est le moment pour faire des réflexions, pour penser, pour étudier, pour...
Je suis dévasté, je comprends pas.
Connaître un peu les autres... championnat.
On s'est parlé, je pensais que t'étais un mec bien. Mais c'est quoi ça?
Et aussi pour visiter mes amis.
Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire?
Je vais pas changer.
Bon, merci Franck Leboeuf, un ami d'RMC. Alors hier donc, on a vu toute la panoplie de José Mourinho lors de la finale de l'Europa League, perdue finalement par la Roma contre Séville. Une équipe plutôt enthousiasmante en début de match, mais qui s'arrête complètement de jouer après avoir ouvert le score, ce qui donne un match particulièrement ennuyeux à partir donc de ce but. Un entraîneur en colère en permanence devant son banc de touche, fou furieux contre les arbitres, il s'est même fait avertir. Et Johan Crochet disait hier, le spécialiste du foot italien, qu'il y a eu 12 cartons rouges pour le staff de la Roma tout au long de la saison. C'est hallucinant. Et un coach qui, en fin de match, dénonçait l'injustice. Le résultat est injuste, l'arbitre semblait espagnol, a dit Mourinho. Il a même attendu Monsieur Taylor après le match pour lui dire sa pensée devant son bus. Il était pas redescendu, José Mourinho. Alors celui que vous avez vu hier, ce Mourinho-là, vous fait-il envie pour le PSG, puisque c'est là qu'on l'annonce pour la saison prochaine? 32-16 appelés pour en débattre.
Il n'avait pas déjà d'ailleurs sur le les propos qu'il a tenus. Alors, c'est pas la fameuse phrase qu'avait dit Drogba, l'issue d'un fameux match de Champions League à Stamford.
En fait, dans le bus, devant le bus, effectivement, il dit fucking disgrace.
Ouais, c'est ça.
La même phrase que Drogba avait tenue. Mais Drogba, c'était pas avec Mourinho sur le banc
non.
À ce moment-là.
C'était contre Barcelone. À Stamford Bridge.
Gussie Dink.
Exactement.
Mais oui, c'était effectivement la même phrase. Jérôme, il te fait envie, ce Mourinho-là?
Bon, écoute, sur le match d'hier, on peut pas dire qu'on s'est éclaté à regarder l'AS Roma, une AS Roma qui a été très défensive une grande partie du match, surtout à partir de la deuxième mi-temps, et tu l'as dit, dès qu'ils ont mené, je vais te dire, dès qu'ils ont marqué, c'était pas du tout la même stratégie, l'équipe, le bloc a reculé vraiment de 10-20 mètres, limite on voyait Abraham et Dybala jouer à 30 mètres de leur but, donc c'est sûr que quand t'es pas un joueur de vitesse, et ce qui est
pas le cas d'Abraham et ce qui est pas le cas de Dybala, quand tu récupères le ballon, c'est compliqué d'aller poser des problèmes dans la partie adverse. Donc la stratégie, je pense qu'elle était pas forcément adéquate, bonne hier, surtout face à une équipe de Séville qui aime avoir le ballon, qui aime être dynamique, qui aime prendre des risques, qui aime apporter du surnombre. Et l'entraîneur hier a gagné son duel avec José Mourinho dans ses changements. L'entrée de Souso a fait énormément de bien et a apporté du dynamisme devant. Et c'est vrai que même s'ils ont gagné qu'au pénalty, mais la logique, je dirais qu'au point, c'est Séville qui a gagné hier. Donc,
et au-delà du match, sur l'attitude de Mourinho,
l'attitude, j'aime Jean-Louis, j'aime avoir un entraîneur qui est actif sur le côté. Alors des fois,
mauvais
perdant, il aime pas, il va toujours réagir, même quand tu obtiens pas une touche et qu'elle est pas, elle était pour toi, elle est pour l'équipe adverse, que le corps arbitral s'est trompé, ça va le rendre fou alors que ce n'est qu'une touche. Mais c'est du José Mourinho dans l'âme. Moi, je pars du principe que il a ce côté, et ça me rassure, il a ce côté toujours passion du foot, grinta, peut-être à l'excès avec ses adjoints. Je te reconnais que sur le match d'hier,
c'est même pas peut-être, c'est sûrement.
Deux
cartons rouges dans la saison, ça fait beaucoup pour un staff.
Je trouve que les adjoints en rajoutent un peu trop, que même les remplaçants, les a même calmés après le but.
Mais c'est ce qui est bien aussi, c'est ce qui est inhérent avec Mourinho, c'est qu'il arrive à transmettre justement cette rage de vaincre, cette détestation de la défaite.
Ouais.
Et par tous les moyens, il va essayer justement d'inverser la tendance. Donc après, rejeter la responsabilité aussi sur le match d'hier. Donc. Moi, c'est ce qui me laisse un peu dubitatif, c'est moi j'aime bien.
Non, mais à l'arrivée, on a vu hier que quand justement il jouait, ça se passait bien.
Exactement.
Et c'est quand il tombe dans la caricature, même avec plein de l'arbitrage, défensif. Et à l'arrivée, ils ont perdu la coupe.
Et durant toute la saison avec la Roma, même s'ils n'avaient pas l'effectif pour concurrencer le podium et la Champions League. D'ailleurs, il leur reste quand même un gap. Et je suis les déclarations de Mourinho sur ce sujet-là. Le gars, il joue des finales très régulièrement, quoi. Mais dans tous les clubs où il est allé, quoi. C'est la première fois qu'il perd une finale en menant au score, en plus. Donc c'est la première fois dans sa carrière.
Première fois qu'il perd une finale.
Mais enlevez-moi un doute, les gars. C'est en fait son pétage de plomb hier en incriminant l'arbitre, c'est à cause d'une main qui n'aurait pas été sifflée. C'est ça.
En deuxième mi-temps, en fin de match.
S'il y avait d'autres faits de jeu récurrents dans le match qui sont à l'encontre de la Roma et qui auraient pu basculer dans le sens de la victoire.
Non, mais moi j'imagine Manu que sur le match d'hier, par exemple, il y a de la frustration de côté Mourinho, parce que en effet l'arbitre, par moment, on a l'impression, et est-ce que c'était fait sciemment ou pas, je sais pas, mais qui penchait un petit peu pour Séville sur certaines décisions, et que ça l'a rendu fou quand il a sifflé penalty et qu'il est revenu sur ce penalty là, parce qu'il est quand même à 2 mètres de l'action, donc il doit voir, à lui de voir que le défenseur il a touché le ballon et qu'il a pas attrapé le pied de l'attaquant de Séville. Ça l'a rendu un peu fou, je pense. Plus le penalty pas sifflé parce qu'il y a une main. Et en effet, même si moi je suis pour que ces pénalties soient pas sifflées, il y a plein de matchs où ces pénalties ont été sifflées.
On rappelle le Bayern.
Mais c'est tellement un passionné qui vit. Il doit même pas dormir. Et quand il sent que le match, il est en train de basculer, parce qu'à un moment donné, il était tranquille.
Oui, c'est vrai.
Quand il bascule, il pète un câble. Et c'est pour ça. Après, il transmet ça même sur son banc. Sur le banc, quand tu prends tant de rouges, c'est déjà, il aime pas perdre. Il aime pas perdre. Et après, tu l'arrêtes plus. Il est allé même au sous-sol pour insulter tout le monde. Il est tellement passionné. Mais si demain il signe à Paris, je ne sais pas ce qu'il va transmettre.
C'est surtout que ça va changer des entraîneurs qu'on a eu dernièrement.
Il y aura certainement une équipe bagarreuse. Évidemment, tout ce que vous dites, mais attention quand même à ne pas tomber dans la caricature de Mourinho qui se donne en spectacle.
Non, c'est des passionnés.
C'est ce que je vous dis. Vous trouvez ça super et tout, le personnage Mourinho, il dégage de la green tag, etc.
Il demande à ses joueurs quand un côté comme un voyou bagarreur quand même.
Il y a des moments où il s'est un peu perdu. Au Real, il s'est perdu dans sa détestation de Guardiola, etc. Bah, hier, avec l'arbitre.
Jean-Louis, là,
le comportement paranoïaque.
Ça va un peu loin, mais ce côté-là.
Est-ce que tu as besoin de te chauffer à ce point tout le temps comme ça?
Moi, je pense
que t'avais pas perdu.
Tu te chauffes parce qu'on est passionné.
S'il joue tout le match, peut-être qu'il le gagne sans aller au pénalty.
Jean-Louis, hier, mets ça de côté, c'est une finale. Et une finale, on en a tous joué ici. Une finale, tu ne l'abordes pas de la même façon. Tu ne peux pas juger un entraîneur sur l'ensemble de sa saison juste sur le moment hier sur la finale.
Après, l'ensemble de la saison, elle n'est pas plus en championnat extraordinaire.
Moi, là où je te rejoins,
sixième,
hier, il perd son duel avec l'entraîneur parce que je pense que tactiquement l'entraîneur lui a posé d'énormes problèmes, il a pas su répondre. Par contre,
et donc là on voit la mauvaise phase de Mourinho, l'arbitrage.
Mais exactement, par contre, ce qui va pour lui encore, quand moi j'aime ce côté grinta, réaction blasé, et tout ça. Non, mais il le transmet à ses joueurs. Si son équipe était à l'opposé de ce qu'il dégage sur le banc ou que son banc de douche dégage, je te dirais, il y a un truc qui va pas. Et c'est déjà arrivé à Manchester,
il avait perdu
même à Tottenham.
Il n'emportait plus personne.
Mais il pouvait s'énerver comme il voulait sur le banc. Les joueurs, là, hier, et Pascal et Manu, vous l'avez vu comme moi, hier, un mec comme Dybala. Dybala qui est certainement le joueur le plus talentueux quand il a la balle au pied hier. Mais Dybala, il fait des efforts sans le ballon qui sont ahurissants. Il l'a jamais fait
les à la Juve de l'Inter quand ils ont gagné la Champions League.
Exactement.
À Barça.
Il arrive à te mettre dans la tête que tu vas être bon. Et tu vas même dépasser ta fonction, jouer contre nature.
Mais comme on a vu aussi avec Pogba, avec Dele Alli à Tottenham,
mais là, ça ne
marchait pas.
Ça marche pas.
Donc, t'as raison.
C'est des exemples.
Non, mais Dele Alli, il y a des joueurs avec lesquels ça ne marchait pas.
Mais Jean-Louis.
Mourinho, il était quand même encore un joueur de.
Ouais, mais Pogba, je pense que si tu demandes ce qu'il pense de Mourinho, il va te dire que.
Ah, Pogba. Pogba, je disais, oui.
Oui, mais Paul aussi, peut-être qu'il avait aussi des problèmes
extra-sportifs.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne marchait pas tout le temps.
Ça fait partie de la légende de Mourinho. Tu peux pas le dissocier, ça. Tu l'acceptes, mais si tu lui demandes de changer, ça sera plus Mourinho.
C'est plus le même. Rappelez-moi le nom de l'entraîneur de l'Atlético aussi.
Simone.
Voilà, quand tu vois ça, mais même toi, quand tu regardes ces matchs, ça te fait vibrer de voir des coachs comme ça. Tellement l'entente avec ses joueurs qu'à un moment donné, les joueurs ils sont motivés sur ça. C'est impressionnant.
Oui, t'aurais gonflé à bloc, Mourinho, si t'avais entraîné Pascal, ça aurait été énorme. Marc nous rejoint au 32-16 pour participer au débat.
Salut Marc, bienvenue.
Salut l'équipe.
Bienvenue. Bon alors, tu nous as entendu parler de Mourinho. On est un petit peu tous unanimes là sur José Mourinho. Qu'est-ce que tu en penses toi, Marc?
Écoutez, moi je pense que c'est un entraîneur qui fit très bien à Paris. Pour moi, si on me donne le choix, je choisirais pas Mourinho en premier. Je crois que je prendrais un Guardiola ou un Ancelotti.
Mais
Mourinho, ils sont pas, on peut pas les prendre.
Non.
Mais Mourinho aujourd'hui, pour plusieurs raisons, pour moi, c'est un des entraîneurs idéaux pour Paris. Premièrement, quasiment de partout où il est passé, il a gagné. Et c'est ce qu'on demande à Paris aujourd'hui. On demande de gagner en premier, le beau jeu en deuxième.
Surtout sur la scène européenne.
Exactement, sur la scène européenne, c'est exactement ça. Avec Porto, il l'a gagné, avec l'Inter, et encore avec la Roma l'année dernière. Il est en finale, c'est une chance sur deux. Il la perd, mais il y arrive quand même. La deuxième chose, c'est que l'environnement médiatique au PSG, il est vraiment compliqué. Et Mourinho, c'est un spécialiste pour ça. Il prend la pression sur lui, il prend la pression sur ses épaules, et il l'enlève à ses joueurs. Et le troisième point qui est le plus important pour moi, c'est que hormis Ancelotti, au début des années 2010, où je pense que ça a été une bêtise de le virer, il n'y a pas un entraîneur en fait qui a plus gagné que ses joueurs. Vous voyez aujourd'hui les joueurs du PSG, des Mbappé, des Messi, ont gagné des Ligues des Champions, des Neymar. Les entraîneurs qui sont passés, ils n'ont jamais gagné ce que les joueurs ont gagné. Donc
automatiquement. Ouais, mais ça, je pense que dans le respect, je vais te dire, c'est pas forcément ça qui va primer. Surtout quand dans un vestiaire, comme tu me parles du vestiaire parisien, je pense qu'il y a une autorité naturelle à mettre en place et surtout un côté travailleur à mettre en place. C'est ce qui n'existe plus depuis X années au PSG. Et qu'avec Mourinho, au moins, tu as la certitude de ça. Après, que les joueurs suivent ou pas, les joueurs qui vont pas suivre, de toute façon, il va faire comme il a fait à Manchester United, par exemple, c'est qu'il va en écarter, il va pas attendre que Nasser ou Luis Campos te disent « Ah bah écoute, non, lui, il va falloir que tu le fasses jouer parce que lui représente ça. »
Nous, ça serait super de l'avoir en France puisque à la radio, on en parlerait très souvent.
Ah, c'est sûr. Merci Marc, t'es venu au 32-16.
Et puis, vu qu'il m'apprécie, il viendrait souvent dans Rotten sans flamme. Donc
puisqu'on
moi, j'ai envie qu'il vienne.
Sur les possibilités de recrues au PSG,
et c'est réciproque.
On a des infos à vous donner sur des joueurs. On va le faire dans une seconde. Mais nouveau détour par Roland Garros. Julien Taxi, un point sur les matchs.
Ah, c'est Eric, pardon. C'est Eric Salio qui a pris le relais.
N'hésitez pas à nous prévenir.
Franchement, il vient de partir à l'instant. Coco Gauff est sur le court Suzanne Lenglen. Elle mène 5-1. C'est un match qu'on suit avec beaucoup d'intérêt puisque derrière cette rencontre, il y aura le dernier Français en piste, en lice, à savoir Arthur Rinderknecht qui sera opposé, vous le savez, à un top 10
Taylor Fritz. Donc ça pourrait débuter dans une demi-heure, trois quarts d'heure.
Merci Eric. Roland Garros, toutes les demi-heures sur RMC en intégralité sur la radio digitale 100% terre battue.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h16 sur RMC, toujours dans Roten sans flamme. On continue nos débats dans Roten sans flamme avec Manu Petit, avec Pascal Olmeta, avec Jean-Louis Tour. Et Jean-Louis, donne-nous la suite du programme. Arrête de dormir et on est bien.
Bah, fais pas comme Eric Salio ou les Roland Garros.
Ils nous font une belle quinzaine. À 19h30, les fins de carrière en Arabie Saoudite, est-ce que ça vous pose un problème ou non? Ou est-ce que finalement ces joueurs-là qui ont tant donné peuvent faire ce qu'ils veulent à la fin de leur carrière? 32-16, montez sur le ring des supporters pour nous donner votre avis. On a des infos mercato donc sur le PSG à vous donner. Marco Asensio se rapproche fortement du PSG. Il aurait donné sa validation pour venir à Paris puisqu'il est en fin de contrat. Il a 27 ans, le joueur du Real Madrid, le gaucher, plutôt milieu offensif côté droit. Donc on parle, ça c'est les médias espagnols qui parlent d'un contrat de 4 à 5 ans pour lui avec un gros salaire, 8 millions par an pour Asensio, joueur qui a montré des qualités, hein. Il a mis plus d'une dizaine de buts cette saison avec le Real, mais qui n'a jamais pu s'installer comme un titulaire. Oui, voilà. Alors Valverde, il s'est installé comme titulaire indiscutable, Asensio, pas forcément. Voilà, une opportunité libre.
Non,
Jérôme.
Mais j'apprécie le joueur. Il est dans une équipe, il est barré par plus fort que lui. Donc
ça veut dire que Silva.
J'imagine. Non, mais.
C'est peut-être un joueur de complément, là.
C'est un joueur de complément à 8 millions par.
C'est le problème du PSG.
Non, mais.
Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau draft
de plus, en fait,
avec un joueur qui aura un.
On en revient à ce que je voulais te dire.
Un de plus.
C'est que je suis désolé, mais vous êtes les pigeons. Les pigeons, c'est un joueur libre, bien sûr que tu dois faire les efforts, mais le joueur, il doit venir pas que sur l'aspect financier, parce que si Marco Asensio vient au PSG, je vais te dire, c'est que déjà, je pense qu'il y a des grands clubs, il n'y en a pas beaucoup qui tapent à la porte, et encore moins à ce tarif-là. Donc il vient pas pour les bonnes raisons, donc on en revient à la même chose, le mode de recrutement, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, tu dois le faire différemment,
lui vendre
un projet différent. Et Asensio, mettre le maillot du PSG ou mettre le maillot de Manchester City ou de Manchester United ou de Chelsea, je pense qu'il en a rien à carrer, quoi.
Surtout qu'il a gagné 4 Champions League ces dernières années.
Et pourtant,
donc il aurait pas fallu le faire à ce prix-là?
Non.
Parce qu'en gros, ce qu'on comprend, c'est soit on le paye autant, soit il vient pas.
Mais pas à ce prix-là.
Bon, en fait, ils veulent le faire pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert,
c'est
ça?
Mais t'as des joueurs à dégager déjà, fais du tri avant de recruter. Après, tu lui fais une proposition. Et encore une fois, je te dis, c'est pas forcément un mauvais recrutement. Après, est-ce qu'il s'adaptera avec les bonnes, à la bonne personnalité, les bonnes conditions pour y arriver, ça laisse à désirer.
Ouais.
Et je pense que on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais à ce tarif-là, franchement, il va faire des photos à la Tour Eiffel, comme ils ont tous fait la plupart. Il va jouer 2-3 matchs, il va se blesser, il va faire voilà. Alors j'espère qu'il fera mieux que Draxler, comme t'as comparé, mais c'est le même genre de recrutement. Voilà, et moi c'est ça que.
Et surtout contrat longue durée. Hein. On parle de 4 à 5 ans, ça veut dire
et en plus.
Ouais.
Et plus la prime à signature, non, parce qu'il est
Jérôme et Manu. Jérôme et Manu.
Ouais.
Et Jean-Louis. Oui. Puisque dans nos discussions que j'ai dit en début d'émission, voilà, nous, je pense qu'on a un peu ce vrai parler. Tu construirais comment ton équipe du Paris Saint-Germain, puisque toi, tu es 300% PSG, Jérôme. Comment tu construirais là l'approche de ta nouvelle saison?
Mais l'approche déjà.
Tu verrais quoi exactement pour que tout le monde comprenne bien d'avoir une équipe compétitive.
Ce que je verrais, la priorité que je mettrais.
Souvent, qui est pas clair, mais là, je voudrais savoir.
Non, mais arrête tes conneries, arrête d'écouter Antoine, Barnier qui te répète. Bah
allez, ça y est.
Qui te répète des trucs. Donc qu'il arrête lui de penser que je suis pas clair. Je suis très clair. Moi, je pars du principe que l'effectif que tu as aujourd'hui qui est défaillant, déjà tu dois le vider, tu dois te séparer des contrats que tu vas récupérer là, les prêts qui reviennent, il faut s'en séparer absolument. Déjà ça c'est la priorité. Ensuite tu dois mettre des joueurs à l'intérieur du vestiaire qui ont une forte personnalité, un fort caractère, envie de travailler, envie de représenter le PSG. Ça doit être la priorité.
Bon.
Ta marque de fabrique. Après, une fois que tu as mis ça en place et que tu as
la plupart, un gros groupe de joueurs dans ce sens-là, avec des jeunes, parce qu'il y a des jeunes de qualité que tu peux faire monter dans le groupe, et ben là, tu recrutes des joueurs par ligne en disant lui, ça doit être un cadre, lui, ça D'accord. doit être un cadre, et lui, ça doit être un cadre. Et okay. le problème, c'est qu'ils font tout à l'envers. Ils vont te prendre un mec comme Asensio qui est libre, comme Wijnaldum est arrivé libre, comme l'autre de Manchester United là, qui est arrivé, qui Herrera, qui est arrivé libre. Voilà, c'est le même, comme Draxler est arrivé.
Il n'y a pas d'entraîneur, enfin, on ne sait pas qui sera l'entraîneur.
Et puis en plus, tu n'as pas d'entraîneur, donc ça veut
dans le schéma de jeu, ça, c'est pas bon.
Mais exactement. Donc, je suis désolé, Pascal, ils font tout à l'envers. Voilà ce que je mettrai en place.
Non,
mais
alors,
encore une fois, je ne suis pas directeur sportif.
Mais est-ce que c'était clair, Pascal?
Ben pour le moment, j'ai rien compris.
Allez, j'ai une autre info à vous donner.
Je t'ai parlé du terrain. Comment tu la montes, ton équipe?
Voilà, là, tu as déjà fait une explication. Là. Après, bon. Vous vous appellerez. En
là, tu me fais des histoires transfert. Comment alors, tu montes ton équipe?
Et quelle histoire transfert? Mais qu'est-ce que tu vois?
J'ai une autre histoire transfert.
Asensio. Tu le mets où, Asensio?
Asensio, tu le mets en haut à droite.
Il va finir à côté de chez toi, en Corse, là, au village. Et puis,
mais moi, je vais le bourrer de saucisson.
Pascal, la question. Alors, Lucas Hernandez, ça se rapproche aussi. Lucas Hernandez, il est en contrat jusqu'en 2024 avec le Bayern. Il a sur la table une offre de prolongation de contrat jusqu'en 2027, mais il serait plutôt partant pour le PSG. Il préférerait ce dossier. Au PSG, on est assez optimiste, même s'il y a un certain flou au Bayern, puisqu'il y a eu changement au niveau de la direction. Mais voilà, si Hernandez refuse de prolonger...
Il n'est pas intéressé?
Pavard, je n'ai pas d'infos sur Pavard. Mais voilà, Hernandez, en plus, il plaît beaucoup à Paris avec sa mentalité, etc. Le seul problème, c'est qu'il se remet des ligaments croisés. Mais voilà, on peut se remettre aussi des ligaments croisés et retrouver un haut niveau.
Ah oui,
après
bien
une grande blessure.
Bah oui, quand même.
C'est le pari que devrait faire le PSG. Hernandez à Paris,
Manu. Bah, si les deux frangins veulent venir, moi, ça me plairait.
Parce voilà, que, à Théo, je ne suis pas sûr.
Non, j'aime leur grinta, j'aime leur tempérament, j'aime leur fougue. C'est d'ailleurs ce qui manque chez pas mal de Français du côté Paris Saint-Germain. Donc ce côté passionnel aussi et qui transmet des émotions, mais qui a aussi un lien avec les partenaires. Donc oui,
après, un lien avec la France. Je veux dire, il est champion du monde.
Donc,
automatiquement, c'est une bonne recrue.
Il vient remplir des cases qui sont vides à l'heure actuelle. En plus, sur le côté défensif.
Et puis, oui, Manu.
Ouais, mais les blessures aussi à répétition sur longue durée, on a bien vu que c'était une galère du PSG cette année. Quoi.
Ouais, et puis, il a bossé dans des clubs avant qui bossaient.
Ouais.
Avec une façon de travailler. Et peut-être que lui va transmettre ça à certains. Et je pense que ce genre de recrue. Et en plus, il a pour lui d'être un sacré joueur quand il est en pleine possession de ses moyens. Et je lui souhaite de revenir à 100% très vite. Donc là, oui, c'est une bonne recrue, c'est une bonne vision. Et puis en plus, l'avantage, c'est qu'il parle français, contrairement à certains. Tu vois, donc ça fait du bien.
Par ailleurs, selon Fabrice Hawkins, le PSG n'ira pas plus loin sur Kim Min-jae, le joueur de Naples, trop cher. Voilà, il devrait aller en première ligue. Défenseur central de Naples. Les infos mercato sont sur rmcsport.fr, bien sûr, on vous tient au courant.
Et en France, mercato, on a des joueurs à prendre derrière. Pareil, déjà, essaye de recruter aussi dans le championnat.
Prendre qui?
Tu peux. Je sais pas, il y a des joueurs qui ont brillé.
Pas loin.
Du côté de Lens.
Non, Medina, tu prendrais par exemple?
Pourquoi pas? Je sais pas s'il y aura possibilité, mais Danso, à Lens, ça a bien marché. Voilà. Tu vois, il y a, je sais pas, Lyon
c'est
comme
quoi, Fofana,
ça.
Oui, au milieu.
Je cherchais qui là?
Le défenseur Fofana, je me dis, mais pourquoi il me parle de
Fofana, sur la défense? À Monaco, même s'il vit une saison compliquée, du moins surtout une deuxième partie de saison compliquée, l'international français Disasi, qui était dans les petits papiers l'année dernière. Pourquoi pas? Moi, je préfère recruter ce genre de joueur qui connaît le championnat de France et qui sait ce que représente le PSG plutôt que d'aller chercher des joueurs à Naples, dans d'autres clubs qui ont certainement brillé, mais qui vont pas forcément briller au Paris Saint-Germain.
Dans une seconde. Oui, tu voulais ajouter un mot, Pascal?
Tout simplement. Je sais pas si vous avez des nouvelles du second gardien de but. Je sais pas.
Ah, de Sergio Rico, on en a pas pour l'instant.
Sergio Rico, je sais.
Alors, les seules choses qu'on a, c'est Christophe Galtier qui s'en est tenu aux différents communiqués de l'hôpital espagnol qui communique sur l'état de santé. Pour l'instant, et rien de plus que ces derniers jours. Juste, il y aura aucune festivité autour de PSG Clermont samedi, qui aurait dû être le match du titre, la remise du trophée.
Et je voudrais faire un gros bisou, si vous me le permettez, à Gaëtan Huard, notre ami Guéguette.
Ouais,
qu'est-ce qu'il a, Guéguette?
Mais il n'était pas bien ce soir des 93. Il n'était pas en pleine forme et je lui fais un gros bisou.
Hein. Bah écoute, on l'embrasse. Okay. En tout cas,
merci les gars.
C'est un bon
merci
mec pour l'embrasse fort.
Très bon mec.
Les joueurs qui partent en Arabie Saoudite et surtout la mise au point de Karim Benzema sur son avenir, départ ou non en Arabie Saoudite. Il en a parlé il y a quelques minutes. Je vous raconte ça dans une seconde. Restez avec nous. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h30 sur RMC, il reste une demi-heure dans Roten sans flamme. On est là, on est bien avec Manu Petit, avec Pascal Olmeta, avec Jean-Louis Tour. Dans 10 minutes, c'est le quiz de Julien Cazard. Ouais, 15 minutes, le quiz de Julien Cazard. Avec pas de cuillère de bois, pas de grand chelem aujourd'hui, cette semaine, mais...
Un petit grand chelem, un grand chelem camembert.
Le plaisir de vous faire gagner un super cadeau.
Exactement. Oui, le super cadeau, c'est un but de foot. Grâce au site, un but de foot Liga même.
Ouais, Liga. Ouais.
Tu le mets où ton but de foot?
Bah, dans ton jardin.
Ouais.
Ah, bah, d'accord, il faut avoir un jardin, ça.
Ah, bah, sinon, c'est compliqué, effectivement, Manu.
Non, mais tu le gagnes, tu le donnes à qui il faut.
Bah oui, tu peux l'offrir à quelqu'un qui a un jardin, tu connais bien quelqu'un.
Une association aussi.
Ou une association, ou un club, voilà.
Ouais.
C'est grâce au site butdefoot.fr pour vous inscrire. Mais quoi, les clubs, ils ont besoin d'un but pour l'entraînement? Soit vous envoyez top par SMS au 732-16, soit vous appelez le 32-16 et vous appuyez ensuite sur la touche 4. Benzema, on y va.
RMC, Roten sans flamme.
Le ring des supporters.
Oui, alors, les choses s'accéléreraient autour de Karim Benzema. Fred Hermel, le spécialiste du foot espagnol, disait hier que autant en début de semaine, on n'était pas inquiet à Madrid, autant là, on commence à s'inquiéter face à une possible offensive de l'Arabie Saoudite pour acheter Benzema. On parle d'un contrat incroyable de 200 millions d'euros sur 2 ans, voire même certains avancent 400 sur 2 ans pour Benzema. Alors, il était un gala pour le journal Marca il y a quelques minutes et donc il a pris la parole pour la première fois sur cette affaire de façon directe, hein, parce que sur ses réseaux sociaux il fait toujours des allusions qu'on comprend pas. J'ai un match dimanche, dit Benzema, je m'entraîne demain, donc pour l'instant je suis à Madrid. Et puis il a été relancé et il répond, parce qu'on lui dit alors, et l'avenir Karim? Il dit, mais pourquoi vous voulez que je parle de l'avenir? Je suis à Madrid. La réalité est bien différente de ce qui se dit sur internet. Donc voilà une sorte de démenti de la part de Benzema. Il n'est pas encore en Arabie Saoudite. C'est l'occasion quand même de débattre. Est-ce que ces fins de carrière en Arabie Saoudite vous posent un souci? Alors on peut citer donc Benzema possiblement, Ronaldo qui y est, Messi, il y a une grande cour de l'Arabie Saoudite pour le faire venir, Hugo Lloris serait pas insensible non plus. Il y en a un qui visiblement, selon les médias espagnols, a dit non, c'est Luka Modric. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un souci ou pas là-dedans? Fabrice est là au 32-16 pour monter sur la ligne des supporters, Jérôme.
Salut Fabrice.
Salut. Bonjour.
Bienvenue Fabrice.
Bonjour. Émission, super. Ouais. D'abord, je voulais vous dire un grand merci pour votre émission qui est géniale.
Ah, c'est gentil.
Tous les jours, c'est fantastique. Gentil.
Merci beaucoup Fabrice.
Et puis, je vous ai appelé pour vous confier un truc, vous dire que moi, je suis pas à l'aise avec ça.
Mm-hmm.
Pourquoi je suis pas à l'aise? Parce que je trouve que ces grands sportifs, ces grands noms, ils drainent des valeurs, ils drainent quelque chose. Le foot, c'est un sport mondial. Et je pense qu'ils ont pas besoin de ça. Ils ont gagné tellement d'argent, ils ont pas besoin de ça que d'aller à quelque part aider un pays à se donner une belle image, alors que on sait bien que ce pays, l'Arabie Saoudite, ne respecte pas mal de règles des droits de l'homme, fait des, comment dire, vous savez bien l'histoire avec le journaliste qui a été tué dans une ambassade, découpé. Et moi, ça me pose problème que ces grands noms, pour de l'argent, quelque part, aille apporter un support à ça. Je parle bien à titre individuel, parce que c'est des individus. Hein, c'est des individus qui en prennent la décision. Hein. C'est pas, je parle pas de politique, hein, c'est pas des États, c'est pas des clubs, des organisations, c'est des individus. Et moi, j'ai un exemple. Hein, je suis un peu golfeur à côté. Il y a ce problème dans le golf depuis 2-3 ans, avec la création d'un circuit parallèle, le LIV, par l'Arabie Saoudite. Et il y a des grands noms qui ont fait le choix d'y aller. Mickelson,
ouais, c'est vrai.
Garcia. Mm. Il y a des grands noms, et les plus grands qui ont dit non, on va pas soutenir ça. Et le plus grand d'entre eux, Tiger Woods, à qui on avait proposé 500 millions de dollars, et qui a décidé de pas y aller, voilà. Donc, je voulais donner cet exemple-là pour la réflexion, quoi.
Ouais, ouais. Non, mais ça s'entend dans tous les cas. Moi, je vais rester juste sur le sportif, sans parler de l'aspect politique. Moi, sportivement, ça me dérange un peu, dans le sens où je pense que ils ont drainé, et tant mieux pour eux, beaucoup d'argent. Ils en ont gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que là, c'est même plus une question d'argent, en fait. C'est juste une question d'image.
encore une fois, moi je pars du principe que quand le mec est cramé, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais quand le mec, il était encore comme Karim par exemple, ou Cristiano Ronaldo à Manchester United, oui. Et encore avec Cristiano, il commençait à, on sentait que.
Ouais, voilà, tu peux citer Messi qui est champion du monde il y a 6 mois.
Messi qui est champion du monde et je comprendrais pas qu'il aille là-bas alors que Barcelone lui ouvre les portes.
Oui.
Et Xavi l'a encore dit dernièrement. Moi, je pense que ils ont un devoir, c'est de rendre encore ce que le football leur a apporté. Et en termes d'image, même pour la nouvelle génération, c'est génial de pouvoir rester au haut niveau, de pouvoir rendre à un club, que ça soit au Real ou à un autre, parce que Karim, on pourrait dire, bah si le Real, il y a un problème, pourquoi tu viens pas à Lyon? Est-ce qu'il se met en difficulté à Lyon? Peut-être. En termes d'image, peut-être qu'il aura pas envie de le faire, mais ça serait une belle histoire. Et tout ça, moi, j'ai envie de croire encore qu'il peut y avoir des belles histoires dans le football, même si le football a évolué, même si c'est pas les mêmes générations. Mais moi, là, on parle de joueurs qui ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent, quand même.
Oui, d'accord. Enfin, j'entends ce que vous dites. Hein. Ouais. Moi, je vous rejoins également sur certains points. Maintenant, on fait quoi? En 2023, on continue à avoir cette vision-là de certains pays.
Je parle pas de la vision.
On continue
moi.
À leur faire la morale sur les droits de l'homme, sur les droits de la femme, les homosexuels, les droits du travail, enfin les immigrés, de tout ce que vous voulez. Ou alors, on essaye justement d'ouvrir une porte à travers le sport, comme on l'a fait avec le Qatar, parce que je vous rappelle quand même qu'avec le Qatar, l'attribution du Qatar, ils ont été obligés de changer pas mal de lois au sein de leur propre pays. Alors, il y a encore énormément de choses à faire.
Mais ça a avancé aussi. C'était une façon d'avancer.
Moi, j'entends ce que dit
Jérôme sportivement.
Oui, non, mais même moi, j'englobe tout parce que d'attirer des têtes d'affiche comme ça, c'est justement pour faire du soft power.
Oui, mais ça, bien sûr.
Donc, on a bien compris tout ça.
Est-ce qu'à la place des joueurs, tu veux pas finir l'histoire d'une autre façon?
C'est un contrat énorme. Je mets au défi quiconque qui refuserait justement de toucher 1 milliard sur 2 années. Je veux dire, il n'y a pas une personne devant moi, à moins, ou alors vous allez venir me voir en me disant, mais la moralité,
je suis désolé.
Jérôme.
Non, mais quand tu tapes. Non, mais on va prendre l'exemple de Cristiano Ronaldo ou de Léo Messi. Les mecs sont milliardaires.
Mais on s'en fiche.
C'est une proposition que personne ne refuserait.
Sur le plan, tu parles simplement sur le plan financier, personne ne la refuserait.
Mais laisse-moi terminer.
Si tu me parles de la moralité, je te dis justement, je suis d'accord avec vous sur les remarques que vous faites. Simplement, c'est on fait quoi? On continue à les mettre à l'écart et on continue.
Ah non, mais moi je dis pas ça, moi.
Moi, j'ai pas entendu les gens se plaindre de l'attribution de la Coupe du Monde en Russie en 2018. J'ai pas entendu l'attribution des Jeux Olympiques en Chine également, alors que tout le monde les plus gros principaux sponsors étaient des principaux occidentaux.
C'est Fabrice qui disait ça. Moi, je te dis,
la moralité quand ça concerne des individus, c'est la même moralité quand ça concerne des compagnies. C'est la même chose. On va pas tergiverser là-dessus.
Pascal, je pose la même. Les mecs sont déjà des milliardaires, ils peuvent pas refuser et juste dire.
Ah, parce qu'ils sont milliardaires, tu refuserais. D'accord.
Mais non, parce que.
Donc,
non,
en train de demander à Tesla, à tous ces grands milliardaires qui gèrent le monde depuis des décennies, de leur dire arrêtez de continuer à gagner des milliards. Donnez-les à des œuvres humanitaires, à des associations.
Non, mais là, c'est différent.
Si je vous écoute, c'est ça, en fait.
Et toi,
moi je suis en fin de carrière, je suis ballon d'or comme a été Karim Benzema, j'ai gagné tout ce que j'ai pu gagner dans le football, on me propose 2 ans de contrat à 400 millions d'euros, si j'ai gagné beaucoup d'argent, je suis désolé encore, les gars, ça me laisse pas insensible.
Moi je te dis Karim c'est différent parce qu'il est pas à la hauteur de Ronaldo et Messi.
Et après vous dites que je suis quelqu'un de mercantile, j'ai pas de valeur, j'ai pas de moralité.
Pas du tout, mais c'est pas ce que je suis entendu. Mais quant à Messi, Pascal, je te pose la question, quant à Messi ou Barcelone en rêve de l'accueillir de nouveau, Barcelone en rêve. Et que t'as le choix de Barcelone. S'il avait pas le choix de Barcelone, je te dirais pourquoi pas en Arabie Saoudite s'il a fait le tour en Europe.
Mais c'est compliqué dans la mesure où il est ambassadeur du tourisme en Arabie Saoudite en plus.
T'oublies des paramètres qui sont importants dans sa décision. Le contrat, il est signé avec l'Arabie Saoudite. Il n'a pas besoin d'aller jouer là-bas.
Des chiffres qui nous dépassent tous le commun des mortels.
Non, mais d'accord.
Jérôme, à chacun, malheureusement, c'est. On veut pas regarder derrière nous, devant nous. C'est, on va dire à chacun son problème. Si je dis Karim ne va pas là-bas parce que tu as une image, il va me dire mais Pascal, qu'est-ce que j'en ai à foutre de toi, mais fais ton émission et laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Ça va rien changer. Quand tu regardes aujourd'hui qu'il y a quelqu'un par terre, tu l'escalades pour lui passer dessus et ne pas le regarder. À un moment donné, c'est vrai que nous on doit donner cette image nous, anciens ou footballeurs, à tous ces jeunes. Mais après, le football là-bas est en train de changer. Il y a eu une Coupe du Monde, tout le monde criait au scandale, mais toutes les personnes qui sont passées là-bas, ils ont dit, on n'en revient pas. Après, c'est vrai que les droits de l'homme, les droits de ci, les droits de là...
Non mais je vais même pas là-dessus parce que là-dessus là
personne n'y va là-dessus. Nous on parle football.
Non, forcément, tout n'est pas forcément lié.
Ah ouais, alors moi alors d'accord. Alors si l'offre de 400 millions ou d'un milliard sur deux ans venait d'ailleurs que de l'Arabie Saoudite, est-ce que ça serait un sujet de polémique ?
Ben oui.
Ah bon ?
Mais
pourquoi ?
Mais moi sur tout ce que je viens de te dire.
Ah bah sur Cristiano Ronaldo ou sur Karim Benzema ?
Moi sur
quand on leur propose 500 millions d'euros.
Moi c'est juste que
ça serait polémique.
C'est juste que ces joueurs-là qui sont des exemples et qui peuvent encore
provenir d'un pays asiatique,
Manu,
ça serait un problème pour toi ?
Moi,
je pense pas,
moi,
tu vois.
Si ça serait parce que pour moi, c'est je vois eux, je les vois tellement au-dessus.
Ils ont tout gagné, ils ont plus rien à prouver.
Mais d'accord.
Sept ballons d'or, Messi.
Non, mais après, ce n'est que mon avis.
Mais c'est ton avis, justement.
Mais moi, la belle histoire, vu que Léo Messi, par exemple, au PSG, ça a capoté, la belle histoire, c'est que il redore un peu son blason à Barcelone, en donnant la fin de carrière à Barcelone.
Son blason, le mec, c'est le plus grand joueur de l'histoire du football.
Au niveau de l'image en France, me dis pas que l'image
en France. Bah, excuse-moi, mais heureusement, sortie de France, son image, elle est intacte. Heureusement.
Intacte.
Mais sérieusement.
Ah bah d'accord, ok, bon bah d'accord.
Mais tu parles de Lionel Messi partout dans le monde
d'accord,
entier,
donc
tout le monde le voit comme un demi-dieu au niveau du football.
Mais oui, mais...
Il n'y a qu'en France qu'on l'a pourri.
Bah non, il n'y a que les connaisseurs du foot qui se rendent compte qu'il s'est foutu de la gueule du monde.
Ton club qui ressemble à un cirque pain d'air là.
Mais
qui donne
mais déjà, arrête de parler de mon club. C'est pas mon club déjà.
Sans déconner.
Moi, j'en ai parlé le cirque pain du sang.
Non, mais justement, j'étais à deux doigts de faire un jeu de mots justement entre deux choses. Vous avez compris ce que je voulais dire.
Oui.
Non, c'était
cirque pain d'air,
mais t'as pas
compris. D'accord, très bien.
Mais arrête un peu, c'est
du style.
Faut clore ton club.
Bah arrête, mais Manu.
Allez, on remercie Fabrice d'être venu au 32-16 dans ce ring des supporters. Et Manu, tu vas pas régler tes comptes dans le quiz.
Non, mais c'est pas. Les gars.
Si,
il y a un quiz que tu as célébré, tes dernières victoires, tu les as célébrées plus que ton but en Coupe du Monde.
C'est quoi les plus grandes nominations pour un journaliste ?
Non, mais prends pas mon exemple. C'est
ah ouais, parce que tu sais très bien que tu répondrais de la même manière que moi.
Mais non, mais tu parlais avec Jérôme, moi j'ai rien dit, je t'ai pas dit que t'avais tort.
Vous êtes
susceptibles
les deux.
Mais qu'est-ce qu'il raconte ?
Il n'écoute rien celui-là, c'est incroyable.
Il est fou ce mec.
Allez, le quiz dans une seconde avec Julien Cazard.
Le soleil lui a tapé sur la tête.
Bravo.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h45 sur RMC, les 10 dernières minutes de Roten sans flamme du soir. C'est-à-dire, c'est le quiz de Julien Cazard, comme tous les soirs, bien sûr, en espérant que les questions soient un peu plus fiables qu'hier. On est là avec Manu Petit, avec Pascal Olmeta, qui vont former une belle équipe. Moi, mon joker, il est là, il est en forme. C'est Jean-Louis Tour, deux auditeurs, avec un super cadeau à vous faire gagner. Allez, on y va.
Contre le reste du monde, saison 2.
Alors, ce qui est formidable, c'est que c'est pas les réponses qui sont ratées ou les mecs qui sont nuls, c'est les questions qui sont pas fiables. Ça, c'est vraiment. Alors là, je ne connaissais pas celle-là. C'est...
Alors, il y a un but de foot à gagner grâce à butdefoot.fr. Soit pour Julien, soit pour Mohamed. Bonsoir à tous les deux.
Salut Mohamed, salut Julien.
Salut l'équipe.
Salut,
Julien. Salut les gars.
Équipe Roten ou reste du monde ?
Équipe Roten avec une petite spécificité. Hier, vous avez parlé du club d'Ankara Gucci, Gucci, comme on dit, et Gucci, c'est la force.
La force.
Force d'Ankara. Voilà, je voulais juste.
Jérôme avait dit la chance. Il avait dit la chance.
Non, c'est la chance, la chance.
La force.
T'as raison. Il avait dit la chance.
Julien, supporter de Saint-Etienne.
Ah, autant pour
moi. Il vaut mieux avoir de la chance que de la force.
Merci Mohamed. Tu es le reste du monde.
Belle raison, Mohamed.
Quand t'as aucun des deux, ben qu'est-ce que tu fais ? Tu finis sur RMC et c'est déjà pas mal. C'est pas
trop
mal.
Merci Pascal.
La chance d'avoir de la force.
Moment-là.
On enchaîne une petite question flash.
Tout le monde joue.
Manu, t'es avec nous ?
Bah, je suis toujours là.
Merci Manu. Quand Monaco est champion en 2017, qui finit troisième derrière Paris ?
Marseille.
Nantes.
Bordeaux.
Nantes.
Saint-Etienne.
Troisième.
Lille.
Lens. On fait Ligue des Champions.
Lille.
Nancy.
T'as mal entendu. Il rigole.
Toulouse.
Varnier, il rigole.
Nantes. Non. Je l'ai dit, Nantes.
Vous avez dit tout le
Lyon.
Monde.
Nice.
Lucien Favre.
Oui, c'est vrai.
C'est la meilleure saison de Nice.
Oui, merci. Alors là, merci. J'adore les services après-vente. À chaque fois, c'est super.
1-0.
Le ciné-club.
Bravo, Pascal.
Il a pas vu le film.
Mais attention, toi, touillette. C'est pas une touillette que tu vas avoir.
Quel champion de France 2017, qui que c'est, tout le monde joue. Quel champion de France 2017 nous aurait trahi en 39-45 ? Un joueur champion de France en 2017, toujours avec Monaco, qui nous aurait trahi en 1945.
Roten.
Mais qui...
Alors, Rotten n'a jamais été champion, le pauvre.
En 2017, oui.
Un joueur de Monaco.
Armistice,
bien sûr. Bernardo Armistice.
Pétain.
Bernardo Silva. Ouais.
Bernardo Pétain, non.
Laval.
Laval. Ah, bien, Pierre Laval. Non, c'est pas Pierre Laval.
Pétain.
Non,
pas tricher, il me surveille.
Alors, une fois, deux fois. Germain.
Bousquet. Ah, Bousquet. Oui,
Germain. Bousquet,
Germain.
Bousquet. Sergio Bousquet.
Il n'y a pas Jeubels aussi.
Oh non, ah oui, il a joué à Monaco aussi. C'est vrai. Mais
2-0.
À ce moment-là. 2-0.
Non, 1-0.
Qui que c'est dit
pas trouvé. Ça va pas ou quoi?
Là, ils n'ont pas trouvé.
Mais non.
Bah oui.
1-0.
Qui que c'est dit Jean-Louis, merci. Je vous en donne une chance. Quel champion de France 2017 avec Monaco était au fond de la tasse à café?
Lemar.
Lemar, bonne réponse de Jérôme, il est là.
Un partout. Voilà, Thomas Lemar, le café, c'était une question pour Jérôme.
C'était une question pour Jérôme.
Ah oui.
C'est ton frère.
Spécialiste.
Il est un peu dans le dur. Et il revient, mais il est dans le dur. Qui est l'intrus? Il prend le joker, bien sûr.
Ouah, il a un joker. Et c'est Jean-Louis Tour.
Ah,
mais c'est pas le Jean-Louis du jour, non. C'est le Jean-Louis de la nuit. Gigi la Nantes, Gigi la coquine, et Gigi la fofolle, et Gigi la vilaine.
La vilaine.
Je le vois bien en plus.
T'as vu
hein. Lumière tamisée.
Damien est
le petit pompon bleu.
Tout en noir. Damien n'est pas là.
Hein tout en noir.
Qui est l'intrus? Ça va le dos là. T'as les réminiscences des mises au vert là. Qui est l'intrus?
Avec sa couleur poivre.
Qui est l'intrus? Qui est l'intrus? S'il vous plaît. Quiet please, les joueurs sont prêts. Qui est l'intrus? Toulouse, Rennes, OM, Nantes, Guingamp, Saint-Étienne, Montpellier, Monaco, Lille. Toulouse, Rennes, OM, Nantes, Guingamp, Saint-Étienne, Montpellier, Monaco, Lille. Il y a un rapport, indice, un rapport avec le PSG du Qatar. Ah. Toulouse, Rennes, OM, Nantes, Guingamp, Saint-Étienne, Montpellier, Monaco, Lille.
Toulouse, vas-y, dis-le.
Toulouse,
allez,
Rennes, OM, Nantes, Guingamp, Saint-Étienne, Montpellier, Monaco, Lille.
OM. Toulouse, ils n'ont jamais gagné contre
OM,
Paris.
OM, parce qu'ils n'ont jamais gagné un championnat contre Paris.
Ah non, si, c'est vrai. OM parce qu'ils n'ont pas gagné de titre.
L'OM parce
que Guingamp n'a jamais joué PSG.
Pas de réponse, voilà, joué, ah oui. L'OM n'a pas gagné de titre depuis maintenant. Ouh là là.
Ouh là. Bon bah depuis 2000.
Eh ben ça fait loin. Hein. Une Didier coupe
Deschamps.
De la Ligue.
Ouais.
Coupe de la Ligue, je crois. Et 2013 ou 2012.
Ouais, Guingamp, c'est la Coupe de France.
Ouais, d'accord, mais
c'est chaud. On va enchaîner. Mais,
qu'est-ce qu'il veut, Gigi?
Gigi à Fofo.
2-1 pour Jérôme.
Attention. Question s'abuser.
Oh, mais mon billet, c'est abusé, gros!
J'ai fait une Richard Gasquet. J'étais là, puis j'étais pas là. Puis,
Richard.
On l'embrasse, Richie. Ah, Richie, dans le dur. Ah, c'est sa blessure au poignet 2012. 2004, l'année 2012, où Jérôme a failli tout gagner.
Même avant.
Jérôme a failli tout gagner en 2004, et puis rien. Mais c'est pas grave.
Qui est meilleur passeur? Arrête.
Qui? Mais ça s'est joué.
Arrête de m'attaquer, parce que je te jure, ça va mal se passer.
Jérôme.
Il fait peur, en 2004, hein. L'année où Jérôme a failli tout gagner, mais non. Qui a fini meilleur buteur? Tu t'en rappelles?
Nanda.
Morientes.
Pauletta.
De quoi?
De Ligue 1.
Julie.
Si c'est.
Pauletta.
Prénom.
Pedro. Pedro.
Prénom. Djibril Cissé. Djibril Cissé. Bonne réponse
de Pascal.
De Jérôme Rotten.
Mais qu'est-ce que tu dis? C'est moi qui l'ai dit.
T'as pas dit le prénom. Cissé.
Oui, mais bon.
Il a dit Cissé.
Attends, tu veux pas si je te mets la taille de l'air.
Il y avait Edouard Cissé qui jouait.
Oui, il aurait failli être meilleur buteur d'ailleurs.
Allez, question Almeida, tu m'as gonflé.
2-2.
Allez, question Almeida. Soit tu réponds bien, soit.
Je vais chier sur ton scooter.
Et ça fait un point en moins.
Question Almeida, quel Ivoirien gagne le premier titre du PSG champion de Qatar, avec le Qatar?
Camara.
Non,
non,
un Ivoirien.
Tiené.
Tiené, bonne réponse de Jérôme Rotten.
Ça fait 3-2 pour Jérôme.
Attention, on enchaîne avec un kick-away ici. Empoli, Paris Saint-Germain, Cruzeiro. Ajax, Inter, FC Barcelone.
Mais qu'est-ce que c'est que ce joueur?
Qu'est-ce que c'est que ce joueur? Ben, c'est un sacré joueur, je peux te dire. Empoli.
Thiago Motta, Thiago. Maxwell.
Maxwell, bonne réponse.
Eh oui,
de qui que ça soit, 3-3, d'ailleurs.
Bravo, Pascal. Alors, Pascal porte l'équipe reste du monde, c'est incroyable.
Ouais, c'est fou. Eh oui, allez, les gars.
Ah ouais, bravo.
Allez, Manu. Oui. Mohamed, on va gagner.
Et le joker, c'est Daniel Riolo.
Impossible, il torture un communiste dans sa cave.
Bon, ben alors, c'est Jean-Louis qui va faire Daniel.
Vous allez chacun votre tour me donner un des 15 meilleurs passeurs de Ligue 1 cette année. À l'heure où on se parle. Hein. Un des 15 meilleurs passeurs. Jérôme, tu commences.
Léo Messi.
Léo Messi, c'est bon.
Neymar.
Neymar, eh ben oui, c'est bon, il est troisième. Pascal.
Mbappé.
Mbappé dans les 15. Mbappé. Non, non. Il n'y est pas.
Non.
Eliminatos.
Oh putain.
Klose. À toi. Klose, c'est bon. Manu.
Sanchez.
Mon pauvre ami. Ah
non,
toi, Sanchez.
Non, 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 Alexis. Alexis.
Non, 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 non.
Alexis Sanchez.
Alexis Sanchez. Non, oui. Ah bah encore moins. Non, il y a encore moins.
Non.
Non, j'ai gagné. Victoire de Jérôme Bretagne, il y a encore un coup à jouer ou pas là?
Bah non.
Pour l'honneur. Ah, j'ai la dernière.
Non, mais il y a encore une question, bien sûr.
Ah, d'accord.
Mais là, ça fait 2 points pour Jérôme, 5-3.
J'ai un kick à quoi dans le dos? Pour le PSG champion de France 2013, premier titre avec le Qatar. En numéro 13, Cavani.
Il n'y en a pas.
Si, il y en avait un cette année.
Ah, il y en avait.
Il y en avait encore cette année.
Menez.
Daniel Vess.
Non, alors c'est non. Un joueur.
En 2013,
Jérémy Menez.
Qui était surnommé.
Pastore.
Le Tank.
Oh, le Tank.
Ah,
Alex.
Alex, bonne réponse de Jérôme Bretel.
Allez,
c'est
fini.
Une victoire, yeah, Jérôme.
6-3.
Va caguer la vigne, va caguer.
Donc, et de Julien qui remporte les buts de foot.
Rotten contre le reste du monde sur RMC avec butdefoot.fr, spécialiste numéro 1 du but de foot pour votre jardin. Rendez-vous sur butdefoot.fr.
Génération After, c'est tout de suite avec Nico Jamin.
Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut à tous. Effectivement, avec ce soir, Simon Dutin, Kevin Diaz, Walid Acherchour, on va parler de Marseille, Igor Tudor. C'est fini, bonne ou mauvaise nouvelle, le débat au 32-16. Un invité, il est lensois, il s'est intégré de manière brillante au Racing Club de Lens. Adrien Thomasson sera dans Génération After. Il va jouer à la Ligue des Champions à 29 ans après avoir joué le maintien avec Strasbourg. Et puis, à 21h, le PSG a-t-il raison de tenter le pari à Asensio? Fred Armel nous racontera son époque madrilène. Et puis on parlera également de l'ultime journée de Ligue 1, Monaco, Rennes, Lille. Qui voulez-vous voir en Europe la saison prochaine? C'est le programme de Génération After, Jérôme.
Nico, amusez-vous bien, bonne émission, vraiment. Nous, on se retrouve demain, merci encore une fois pour votre fidélité. On est là, on est bien, on va clôturer cette magnifique semaine demain à partir de 18h, comme tous les soirs. Vous en avez l'habitude, Rotten sans flamme revient. Donc bonne émission, bonne soirée sur RMC. Et demain, à l'écoute à partir de 18h. Bonne soirée à tous, bisous.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Prime Video, diffuseur officiel.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.